Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Becketch, dirigé en cette première partie par Serge de Becketch lui-même, assisté de Victoria. Document d'archives du 3 octobre 2001, rediffusé dimanche 27 mars 2011 dans la nuit de 3h à 6h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Bonsoir Madame Victoria.
Bonsoir Monsieur Serge.
La Letty.
Bof.
Bon, c'est bien. Monsieur François-Xavier Guibert, bonsoir. Madame de Billy, bonsoir. J'aurais dû le dire dans l'autre sens, mais je parle dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je viens de citer deux des invités de ce soir. Les autres invités seront essentiellement des invités par téléphone pour des raisons de travail et d'autres raisons que je vous expliquerai plus tard. Donc je recevrai par téléphone le professeur Joyeux, Henri Joyeux, qui vient de publier un livre essentiel et dont on va parler avec son éditeur et avec Madame de Billy. Je recevrai également, toujours par téléphone, Loïc Leribaud, qui est, entre autres activités, un expert en criminologie, avec qui nous parlerons des attentats. Et puis, en fin d'émission, Jean-Pierre Maugendre viendra nous dire quelques mots sur la marche pour la vie qui va se dérouler dans quelques jours. Mais avant, je voudrais très exceptionnellement commencer par un appel au secours. Alors, comme j'ai un richissime éditeur devant moi, j'espère qu'il va m'écouter et qu'il va comprendre l'urgence. Nous avons de gros soucis de trésorerie au Libre Journal. Donc, sont des choses qui. Non, ce qui c'est, il faut savoir que. Avec une logique qui n'appartient qu'au complexe militaro-industriel, depuis la tempête de 99 qui a produit une inflation des stocks de bois formidable, le papier a augmenté de 80%. Si vous pouvez m'expliquer ça, merci. Mais enfin voilà, la situation est celle-là. Et les factures du Libre Journal ont augmenté dans des proportions considérables parce que un des plus gros postes de nos dépenses, c'est le papier, étant donné qu'on veut avoir un journal qui est sur un beau papier. Donc, on est confronté à de grosses difficultés de trésorerie qui sont constantes dans cette période du mois de septembre-octobre, puisque c'est la période d'après les vacances, et pendant les vacances, par tradition, on ne prend pas d'abonnement ou on ne prend pas de réabonnement, et donc là, on est, comme tous les ans, dans une situation difficile qui est encore aggravée par cette histoire de papier. Donc on a besoin de sous. Alors, je ne demande pas la charité, mais je vous demande, si vous aviez l'intention de vous abonner, de le faire sans attendre. Si vous devez vous réabonner, de le faire sans attendre. Et si vous avez envie d'abonner des amis, de le faire sans attendre. Là, c'est vraiment une urgence. Faute de quoi, on va entrer dans une stratégie dramatique de domino, c'est-à-dire que on ne pourra pas payer, on sera en faillite, les gens à qui on doit de l'argent seront en faillite, tout ça finira par des sauts par la fenêtre, des pendaisons dans la grange, des choses horribles. Vous connaissez tout le c'est du Zola, quoi. On est pratiquement au bord du Zola. J'ai même pas de cravate aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est quand même un signe de.
Quelle tristesse.
Grosse difficulté financière.
Mais des belles bretelles, tout de même.
Ah, c'est malin de dire ça. c'est malin, elle me casse mon cou. Bon, donc voilà. Je signale d'ailleurs que il nous reste encore quelques-uns de ces somptueux livres qu'on offre aux abonnés. C'est vraiment un cadeau magnifique parce que, je l'ai dit, c'est un livre qui vaut près de 300 francs. Et qu'on a eu par grâce à la générosité d'un éditeur généreux, si on me répète, c'est pas vous, François-Xavier Guibert, je le dis tout de suite.
Oui, il est horrible.
Non, c'est un livre d'art. Vous ne faites pas dans le livre d'art. Il fait un petit peu de temps en temps. Enfin, si un jour vous avez envie de faire un geste, n'hésitez pas. Non, je le taquine. Alors, donc il nous en reste. Vous envoyez 700 francs. Vous êtes abonné pendant un an au Libre Journal. Magnifique Libre Journal, bourré de révélations passionnantes. Et d'articles bien écrits, dont ceux de François Brignot, quand même, il faut dire. C'est le dernier endroit en France où on peut lire François Brignot.
Hein? C'est bien.
C'est bien, quand même. Et donc, vous recevez le livre et l'abonnement. Si vous offrez le livre, l'abonnement à quelqu'un, vous pouvez vous récompenser vous-même en demandant qu'on vous envoie le livre ou ajouter à ce somptueux cadeau qu'est l'abonnement un deuxième cadeau qui est le livre. Enfin, il y a plein de solutions. Donc, c'est 700 francs. L'adresse, c'est 4 places Franz Liszt, 75010, Paris. Les chèques sont à rédiger à l'ordre de SDB. S comme Suzanne, D comme
Denise
et B comme Berthe. Et voilà, et on sera très content et le journal continuera à vivre et je pourrai m'acheter une cravate.
Voilà.
Voilà.
Le cercle est bouclé. Hein,
le cercle est bouclé. Une petite revue rapide de l'actualité. J'ai noté dans Le Monde ce soir un titre qui m'a rempli de bonheur. C'est Monsieur Roger Kukierman, qui est, je crois qu'il doit être président du CRIF, qui a dit « Juifs et musulmans ont des combats communs ». C'est intéressant comme réflexion. J'ai envie de lui dire « Comment l'entendez-vous ?» Parce que il y a deux façons d'avoir des combats communs, c'est d'être du même côté ou face à face. En l'occurrence, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et une autre déclaration intéressante, c'est celle de Monsieur Salman Rushdie, qui a dit « S'il faut choisir, je choisis Manhattan ». Mais après, hein, pas avant quand même, il n'est pas fou. Il est extraordinaire ce Salman Rushdie, hein. Vous avez entendu dire que l'État a débloqué 30 milliards pour les banlieues, plus 35 milliards par un autre organisme, pour les caisses d'allocation familiale, je ne sais quoi. Donc 65 milliards pour les banlieues. Alors, quand on vous dit 65 milliards pour les banlieues, ça veut dire 65 milliards pour l'immigration. Il faut que ça soit bien clair. Hein. Donc ça fait, sachez que chaque Français va mettre au pot 1000 francs.
Tant que ça?
Ben oui. Bah, 65 milliards divisé par 60 millions, ça fait 1000 francs. Même moi, je suis capable de faire ce calcul.
Oh, comme vous avez fait des gros progrès, sergent. Calcul mental.
Alors, je voudrais quand même... Je vais pas donner lecture de l'intégrale d'une lettre, d'autant que je l'ai probablement oubliée. Non, elle doit être là. Voilà. C'est une lettre à un commissaire de police, un habitant français de La Bruyère à Poissy, qui dit « Maintenant, ça suffit, on en a tous marre de cette cité ». Hein. Et alors il dit, pas une semaine sans feu de cave, les voitures qui brûlent, et personne ne voit rien comme d'habitude. On a vu un, alors là, il y a un nom que je peux pas lire parce qu'il est mal imprimé, avec une bouteille de bière certainement remplie d'essence qui s'enfuyait dans la cité voisine, 30 secondes après le feu s'est déclaré dans une voiture. C'est bizarre, tous les soirs ils foutent le bordel, c'est pas moi qui le dis, c'est lui dans les halls, et ces jours-là vous ne les voyez pas. Demandez à la police qui se fait insulter à tout va. Vous attendez certainement un coup de fusil sur vos jeunes, là pareil un mot que je peux pas lire, victimes de la société, car il ne faut pas se voiler la face, c'est le cas de le dire, ce sont toujours les mêmes qui nuisent. Alors là, toute une liste de noms dont ce monsieur prétend qu'ils ne sont pas bretons, moi je sais pas, je fais pas de nomastique, je peux pas vérifier. Virer ses familles, taxer les parents, faites des menaces d'expulsion et faites payer les dégâts des halls d'immeubles, boîtes aux lettres, ascenseurs avant que votre responsabilité ne soit engagée. Vous êtes responsable des habitants honnêtes qui paient leur loyer. À l'heure où je tape ce courrier, les pompiers ont une fois de plus dû venir à 22h pour éteindre un incendie au numéro 18. On condamne les vies d'ordures, mais tous ces jeunes possèdent des passes pour entrer dans les immeubles. Ils ont tous la clé PTT. Il faut faire mettre une horloge sur les serrures pour qu'elles ne puissent s'ouvrir qu'à l'heure où passe le facteur. On vient de transformer les immeubles en coffre-fort. Cela ne coûte pas cher par rapport aux dégradations qui sont commises. Si vous avez le courage, envoyez un questionnaire anonyme à tous vos locataires et vous verrez les réponses qui seront plus importantes que lors de la dernière élection. J'en viens aux voitures stationnées. Alors il a pris, ce brave homme, il a fait un listing des voitures. Il s'aperçoit que des familles, dont je n'arrive décidément pas à lire le nom, possèdent à elles seules 5 voitures. Une Safrane, dans une cité HLM quand même. La même famille possède une Safrane, une 309 Peugeot, une Renault 5 blanche, une Renault 5 rouge et une Polo blanche. Ça fait beaucoup quand même, même si c'est des familles nombreuses.
Bon,
parce qu'avec le RMI, on peut pas s'acheter. Une Safrane, on peut s'acheter avec le RMI?
Je ne sais pas, je ne connais pas du tout, ni les voitures, ni
voilà.
Les prix.
Alors, ça, je ne lis pas toute la lettre, parce que c'est hallucinant. Les chiens errants, les chats errants, les poubelles qui sont pas enlevées, enfin, les déchetteries en plein air. Cet ami dit, j'ai honte d'inviter des amis, car quand on rentre dans nos HLM, on voit marqué depuis des années sur le conteneur à charbon, Alger. Je sais pas pourquoi Alger d'ailleurs. Et il décrit au long de cette lettre l'horreur de cette cité, de la Bruyère à Poissy. Et c'est ce que vivent les gens en permanence. Alors quand après ils apprennent qu'on va en plus leur prendre 1000 balles par tête, hein,
pour aider,
peut-être parce qu'il faut changer les pneus de la Safrane, je sais pas, peut-être ou repeindre la R12 blanche en rouge, allez savoir. Voilà, le Parisien est en train d'évoluer. Ils mettent des guillemets partout maintenant. Vous avez remarqué ?
Prudence.
Dans le Parisien du 3 octobre 2001, en page 3, il y a un titre, vol dans le 17e, 2, ouvrez les guillemets, Marseillais, fermez les guillemets, arrêtez. En mission de surveillance aux abords du parc Monceau, les policiers du 17e ont surpris et arrêté 2, ouvrez les guillemets, Marseillais, fermez les guillemets, en flagrant délit de détournement de cartes bancaires. La police identifie sous ce nom, par référence à leur ville d'origine, les voleurs de cartes bancaires. Pourquoi pour la ville ? Moi, je serais Marseillais, je serais pas content qu'on donne... Hein ? C'est quand même incroyable, ça. C'est presque du racisme anti-marseillais. Voilà, ça commence à se savoir. Qu'est-ce qu'il y a encore que je voulais vous dire ? Ah, je voulais vous faire savoir que... Vous savez que pendant des années, on a dit que c'était monsieur... Il y avait un garçon qui s'appelait Joe Attia. Vous vous rappelez de Joe Attia ?
Oui.
Qui était le roi du non-lieu.
Ah oui.
C'est fini, il vient de perdre son titre.
Ça y est, il est battu.
Il est battu. Maintenant, c'est Strauss-Kahn, le roi du non-lieu. Voilà, il vient... Alors, mais là, l'histoire est fabuleuse, parce qu'au procès de la MNEF, c'est la présidente du tribunal qui a engueulé le procureur parce qu'il osait soupçonner Strauss-Kahn de choses qu'il avait évidemment pas faites, puisqu'il va être... Il va avoir un non-lieu où il va être acquitté. Donc, il faut saluer Madame Sophie Portier, qui est la présidente du tribunal correctionnel de Paris, et qui a pris la défense des droits de l'homme, enfin en tout cas des droits du Dominique Strauss-Kahn.
C'est bien. Courageux.
C'est courageux, voilà, c'est le mot que je cherchais, tiens, justement. C'est courageux de défendre un ministre. Alors on vous a dit aussi qu'il fallait faire très attention aux amalgames. Hein. On dit il faut pas faire l'amalgame entre musulmans et islamiques. Ça n'a rien à voir. Il faut pas non plus faire l'amalgame entre gangsters et musulmans. Parce que là, en ce moment, à Roubaix, il y a un procès où tout le débat porte sur la question de savoir si Hossine Bendaoui, Mouloud Bouguelane et Omar Zemiri sont, qui sont les rescapés du gang de Roubaix, sont des islamistes ou seulement des gangsters. Et alors on voit cette chose extraordinaire d'un avocat qui vient et qui dit « Attendez, non, mes clients ne sont pas du tout inspirés par des motifs d'une haute élévation spirituelle. Ce sont des petits gangsters, point à la ligne. Donc il faut pas du tout les poursuivre comme des islamistes, il faut les poursuivre comme des gangsters. » C'est à quel point de délire on en est arrivé maintenant. C'est pire d'être islamiste que d'être gangster. Mais dans cet article du Monde, signé Frédéric Chambon, il y a une phrase extraordinaire qui va me conduire par une habile pirouette à la suite de l'émission. Cette phrase, c'est la suivante. Alors, je vous la lis. Depuis le début, il est vrai, l'ambiguïté règne sur la qualification des faits et les motivations des braqueurs. Écoutez bien. Soucieuse de ne pas alarmer la population quelques mois après les attentats du GIA algérien à Paris, les autorités de l'époque avaient écarté la piste islamiste. Au grand dam de certains responsables de la lutte antiterroriste, Jean-Louis Debré, alors ministre de l'Intérieur, affirmait que les exactions du gang relevaient du grand banditisme. Saisi de l'affaire, le parquet de Lille n'avait retenu aucune qualification terroriste. Donc, vous m'avez bien entendu, hein. Si ces gars ne sont pas poursuivis pour terrorisme, alors que c'est évidemment des terroristes islamistes, c'est parce que, soucieuse de ne pas alarmer les populations quelques mois après les attentats du GIA algérien à Paris, les autorités de l'époque, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, avaient décidé d'écarter la piste islamiste. Suivi en cela immédiatement, par le parquet. Moi, je ne savais pas que le ministère de l'Intérieur donnait des ordres au parquet. C'est nouveau, ça vient de sortir. Hein ? Eh bien, ils ont obéi, le parquet a obtempéré. À vos ordres, monsieur Debré, on ne retient pas la qualification terroriste. Alors moi, je dis, bon, très bien, on peut tout à fait s'expliquer ça. Mais ça me rappelle quelque chose. Il y a une semaine, 10 jours, une dizaine de jours, hein, il y a un procureur à Toulouse, qui a dit que le drame de Toulouse, c'était à 99% Un accident.
Un accident.
Bon, alors, moi, je voudrais savoir, le 1% qui reste, qu'est-ce que c'est? C'est un attentat? C'est 99%.
De la malveillance.
Ah oui, mais alors c'est autre chose. Attention, il faut pas confondre. Là aussi, il faut pas faire d'amalgame. On nous a dit que c'était peut-être un acte de malveillance. C'est-à-dire, si vous balancez une roquette sur une réserve d'explosifs, c'est un acte de malveillance. Si vous égorgez une vieille dame, c'est une incivilité. Hein, voilà, c'est le nouveau langage. Donc là, moi, je crois qu'on nous refait le coup. Hein, parce que si vous redites la phrase de Frédéric Chambon dans Le Monde en changeant simplement les indications, vous dites, voilà... Soucieuse de ne pas alarmer la population quelques jours après les attentats de Washington et de New York, les autorités ont écarté la piste islamique au grand dam de certains responsables de la lutte antiterroriste. Alors c'est pas Jean-Louis Debré, c'est l'autre qui mérite aussi l'honneur d'honneur, c'est Monsieur Vaillant, ministre de l'Intérieur, affirme que les exactions de Toulouse, ou que les faits de Toulouse relèvent de l'accident. Hein, on peut dire ça aussi. Voilà. Alors justement, on va en parler de Toulouse tout de suite avec un spécialiste, un expert en criminologie qui est un spécialiste de l'examen des causes des accidents entre guillemets. Et en l'occurrence, il avait fait un très gros travail sur le drame de la maison des têtes à Toulon. Ce monsieur s'appelle Loïc Leribaud. Et je l'ai au téléphone parce qu'il se trouve que Monsieur Loïc Leribaud, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, ne peut pas habiter en France. C'est un homme qui dérange trop. Et donc, il a préféré s'exiler dans un pays étranger, où il fait froid, j'imagine. Il fait froid chez vous, Monsieur Leribaud?
Bonsoir. Non, ma foi, il fait doux maintenant.
Ah, c'est bien. Il pleut.
Mais il pleut bien.
Ah bon, bah, ça, c'est évident. Il pleut pratiquement 367 jours par an, j'imagine.
Non, mais non. Les trois quarts du temps, oui.
Alors, je vous ai appelé parce que vous êtes, je l'ai dit, expert en criminologie. Vous avez mis au point non seulement des méthodes, mais des matériels d'enquête, d'investigation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit?
Je suis, j'ai 54 ans maintenant, et je suis docteur en sciences et docteur en sédimentologie, et j'ai créé en 1981 un laboratoire qui s'appelait le CARM, c'est-à-dire Centre d'application et de recherche en microscopie électronique. Et en 2 ans à peu près, j'ai rénové toute la police scientifique française, c'est-à-dire que j'ai mis au point toutes les techniques qui consistent à prélever les micro-indices, c'est-à-dire les indices invisibles, sur les lieux d'un crime. Et donc de 1981 à 1991, pour le compte du ministère de la Justice, j'ai traité à peu près 2000 affaires criminelles, c'est-à-dire en fait les plus importantes affaires criminelles de cette décennie.
Notamment l'affaire Boulin.
L'affaire Boulin, on s'est bien gardé de me la confier.
Ah oui, c'est ça, vous l'avez pris sous votre bonnet. Vous avez...
Oui.
Oui, oui. C'est probablement une des raisons du brillant succès que vous remportez dans les sphères officielles françaises aujourd'hui.
Ben, c'est-à-dire qu'en 1991, j'ai déposé un certain nombre de brevets, notamment pour les applications en police scientifique. J'ai formé plus de 700 gendarmes et policiers, magistrats. Et en 1991, l'État s'est brusquement rendu compte que j'étais très dérangeant parce que j'étais un expert indépendant. Et comme j'ai commencé à sortir des affaires dans lesquelles l'État était impliqué, l'armée ou la police ou la gendarmerie, brutalement, les affaires ont cessé de m'arriver. La police a tout à fait officiellement copié mes brevets. Et mon laboratoire a coulé, qui comptait quand même 33 ingénieurs, mon laboratoire a coulé en 6 mois. Voilà.
Et vous avez été obligé de prendre un bateau.
Un avion.
Même, oui, un avion. Alors, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est principalement parce que vous avez été commis dans l'expertise de l'affaire de la Maison des Têtes à Toulon. Alors, et vous avez fait un énorme travail là-dessus. Il faut rappeler ce qu'est l'affaire de la Maison des Têtes. Je vais vous laisser le faire parce que c'est quand même votre spécialité.
Alors, je peux rappeler les faits. Donc, c'est à Toulon, le 15 février 1989, exactement à 14h26, en plein centre de Toulon. Une maison qu'on appelait la Maison des Têtes. Maison des Têtes parce qu'elle était décorée de sculptures de têtes. C'est effondré comme un château de cartes. Et on retire 13 cadavres des décombres. et puis à peu près une trentaine de blessés. Alors, l'enquête et les expertises aboutissent incroyablement vite parce que donc l'explosion a lieu le 15 février et dès le 17 février, la police conclut que le drame est probablement dû à une explosion de gaz. Dès le 22, la police à nouveau fait savoir qu'une des locataires du troisième étage, qui s'appelait Madame Wasserstein, était dépressive. Et le 25, la police est en mesure d'affirmer que le lieu de l'explosion est l'appartement de cette locataire du troisième étage et qui s'est probablement suicidée. Alors l'EDF n'est pas content, enfin GDF, pardon, Gaz de France, n'est pas content du tout parce qu'ils ont toutes les preuves qu'il n'y a pas eu de fuite de gaz. C'est totalement impossible et ils font un rapport officiel. C'est néanmoins la thèse qui est retenue. Et donc l'affaire est classée en avril 91 comme accident. Voilà. Alors il y a des tas de choses tout à fait bizarres qui se produisent le jour de l'accident, même dans les minutes qui suivent l'accident. D'abord, un expert de la police arrive qui n'a pas le droit de rentrer sur les lieux. Ce sont des policiers qui viennent lui apporter alors des prélèvements provenant de deux ou trois endroits des ruines. Alors, déjà, le deux ou trois endroits des ruines, au point de vue précision, pour un expert, c'est un petit peu embarrassant. Ensuite, dès l'après-midi, tous les décombres sont totalement déblayés par l'armée. Ces décombres sont répandus dans une décharge, située dans un terrain militaire, et aucun repérage n'est fait sur la localisation de ces débris qui sont donc jetés dans cette décharge. Chose beaucoup plus étrange, certains cadavres, qui sont évacués par les pompiers habillés, arrivent à la morgue nus. Tous ces cadavres sont ceux du premier étage, et également celui de Madame Wasserstein, donc la personne qui est supposée s'être suicidée et que tous les témoins disent avoir été en pleine forme et extrêmement gai. Autre chose très étrange, à l'autopsie, on constate que tous les cadavres du premier étage, où il y avait un laboratoire de prothèses dentaires, tous les cadavres sont en très mauvais état et l'un notamment est déchiqueté au point qu'on ne réussira pas à retrouver le cœur. Alors qu'au troisième étage, Madame Wasserstein, supposée s'être suicidée, et donc par conséquent au cœur de l'explosion, est intacte. Enfin, elle est morte, mais je veux dire, le cadavre est intact.
Mmh. C'est étrange quand même, non?
Comment?
Ne serait-ce que cet aspect, c'est quand même assez...
Mais oui, c'est plus qu'étrange. Et alors, les familles, en avril 1980, donc on conclut par conséquent, officiellement, à l'accident. Et les familles décident de faire appel à moi en avril 91. Donc, je vais sur place, muni de sacs à prélèvement dans un premier temps. Il se trouve que par chance, si j'ose dire, les familles des victimes ont conservé certains objets ayant appartenu aux victimes, notamment des bagues appartenant à Monsieur Torizano, c'est celui dont on n'a pas retrouvé le cœur, qui a été déchiqueté, et puis des cheveux appartenant à Mademoiselle Bail. Donc je rentre au laboratoire, je fais les analyses au microscope électronique, et je découvre une multitude de particules qu'on appelle des résidus de poudre. C'est-à-dire en fait la preuve d'un engin explosif. Et donc c'est le rapport qui est remis aux familles des victimes. Parce que, bien entendu, je n'ai pas été nommé expert officiel. Mmh. Et donc, en dépit de... En plus, donc il y a une autre personne qui s'appelle Monsieur Vulfran Dermand, qui est resté enfoui 7 heures sous les ruines, mais qui a survécu, littéralement par miracle. Et en faisant des prélèvements, il a conservé de cette époque des taches noires, notamment sur les mollets. Donc je fais des prélèvements sur ces mollets, et je les examine au microscope électronique, et je découvre également des traces de poudre. Autrement dit, c'est très clair, ça signifie que l'explosion n'est pas due au gaz, mais est due à une explosion. Alors, explosion de quel type? À ce stade-là, on ne le sait pas encore. Néanmoins, les familles des victimes demandent une nouvelle contre-expertise, suite à ces résultats, et qui est refusé, puisque selon la loi, un magistrat français tranche et décide selon son intime conviction, enfin, ou celle de sa hiérarchie.
Ou celle du ministre de l'Intérieur, comme j'expliquais tout à l'heure.
C'est la hiérarchie.
Voilà, c'est ça. Enfin, le ministre de l'Intérieur est quand même pas dans la hiérarchie du...
Oh, il est pas loin, hein, quand même.
Oui.
Il est pas loin. Alors, enfin, finalement, le scandale devient un petit peu trop gros et le juge est obligé de déclencher une contre-expertise. Alors, faut bien avoir en mémoire qu'en fait, un explosif, compte tenu d'autres données que j'indiquerai tout à l'heure, c'est un explosif qui est arrivé de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça risque bien d'être un missile, ça. Or, la contre-expertise est effectivement ordonnée en mai 92, et les trois experts qui sont nommés sont deux experts du laboratoire de police et un expert de l'armée. Et ils ne donnent leurs conclusions que 2 ans plus tard, c'est-à-dire qu'ils mettent 2 ans pour donner les conclusions que moi j'ai mis quelques jours à accomplir. En plus, ce sont, ayant effectué leur travail dans des laboratoires qui ne sont pas équipés du matériel nécessaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on lit le rapport de contre-expertise, on constate, et ça c'est public, hein, je l'ai publié dans mes livres,
oui.
Que les experts de la police et de l'armée ont travesti les vérités, n'ont retenu que les témoignages qui pouvaient à la limite être en faveur de la conclusion officielle de l'explosion de gaz. Je vais vous donner, si vous voulez, un exemple, justement concernant monsieur Vulfran Dermant, sur lequel j'ai fait des prélèvements de poudre sur les jambes, qui dit textuellement dans son audition, parce qu'il a quand même fini par être entendu par le juge d'instruction.
Parce qu'il n'avait pas été entendu.
Non, tout ça.
C'est extraordinaire. Il est dans la maison, il passe 7 heures sous les décombres,
oui.
Et on ne l'entend pas comme témoin.
Pas immédiatement, beaucoup plus tard. Ben, quand ça a commencé, quand j'ai commencé à faire quand même un petit peu les choses. Hein. Et il dit la chose suivante, textuellement. Tout est allé extrêmement vite. Alexandra, donc la jeune fille là dont j'ai analysé les cheveux, hein, s'est levée brusquement et a crié « Merde ! » Je me suis tourné une fraction de seconde vers la porte du palier en me protégeant la tête de mes avant-bras et alors tout a sauté. Ça veut bien dire clairement qu'il a vu quelque chose arriver.
Il a vu arriver quelque chose, oui, c'est ça.
Et voilà comment c'est retransmis par les experts de la police. Monsieur Vulfran Dermant est entré dans la salle de prothèse où se trouvaient ses trois camarades à leur poste de travail. Alors qu'ils étaient tous assis, Mademoiselle Baye, donc la demoiselle dont j'ai étudié les cheveux, comme si elle se rappelait brusquement quelque chose, s'est précipitée dans une petite salle de derrière. Pensant qu'elle s'était levée pour lui faire une blague, Monsieur Dermont se lève à son tour et fait un pas vers la sortie. Mais au moment où Mademoiselle Baye franchit la porte conduisante à cette petite salle, il y a eu une explosion. Ah voilà, textuellement et tout à fait officiellement.
Comment des
experts de police transcrivent un témoignage.
Vous avez le nom de cet expert, parce qu'il faudrait le proposer à un éditeur, il ferait un bon romancier, hein.
À l'expert, je vais vous le donner tout de suite.
Les noms des experts. Oui, il faudrait qu'ils écrivent quand même des noms.
Les noms des experts. Attendez, excusez-moi, je cherche les noms.
Parce qu'il faut de l'imagination. Pensant qu'il faisait une farce, c'est. Pourquoi pas.
Je vais leur trouver, je vais vous le donner dans quelques secondes.
Mais cette histoire de la maison d'État, donc c'est arrêté là, en fait, ou est-ce qu'il y a eu.
Attendez, je vous donne les noms des experts.
Oui, parce qu'il faut pas les négliger.
Faut pas les rater. Alors, donc, laboratoire de police de Paris, c'est Monsieur Henri Viellard. Mm-hmm. Expert du laboratoire de police de Lyon, c'est le tristement célèbre Jean-Jacques David, qui a été viré pour s'être enrichi considérablement à titre personnel, voici à peu près 4 ans. Et l'ingénieur de l'armement est un nommé Paul Tavernier. Rapport tout à fait officiel. Ouais.
Donc voilà, des clients pour un éditeur qui voudrait faire du roman, du roman à succès.
Oui, je pense, oui.
Alors, vous nous disiez que cette affaire ne s'était pas arrêtée finalement là. Comment a-t-elle évolué?
Alors, donc, ce serait vraiment une affaire très, très longue à raconter. Mais il se trouve qu'on me redemande. Par conséquent, les experts, là, en l'occurrence, concluent effectivement, encore une fois, à l'explosion au gaz, dû au gaz. Donc les experts, les familles des victimes me demandent de revenir sur les lieux. Et cette fois-ci, j'arrive avec les révélateurs officiellement utilisés par le FBI et Scotland Yard pour déceler des traces de poudre. Et les prélèvements sont faits en présence d'un huissier. Et je fais mes prélèvements. Et ensuite, je retourne donc dans une maison, parce que pour faire les analyses avec ces tests de prélèvement qui s'appellent des tests Searchy, bon, il faut avoir une table, etc. Donc, en présence d'un huissier, j'analyse, en fait, je fais les révélations sur des prélèvements réalisés sur les lieux de l'explosion. Et tous les tests se révèlent positifs, ce qui signifie que même plusieurs années après, les ruines sont encore parsemées de résidus de poudre. Donc, autrement dit, il y a bel et bien eu une explosion. Et puis, les témoignages, en continuant à étudier les dossiers, on se rend compte que plusieurs personnes, avant l'explosion, se sont un peu comme le jeune homme dont je parlais au sujet du mollet avec les traces de poudre. Plusieurs personnes ont été affolées avant l'explosion. Mmh. Je peux vous lire quelques témoignages. Le chirurgien dentiste Daniel Cohen, penché sur un patient, le dos à la fenêtre, a vu une vive lueur accompagnée d'une sorte de grésillement. Il a eu le temps de se jeter au sol en entraînant son malade, avant que l'immeuble en face ne s'effondre dans un grand bruit d'explosion. Il a bien vu quelque chose, quand même.
Ouais.
Ensuite, Madame Guido, qui se trouvait dans le même immeuble que le docteur Cohen, a entendu un grondement qui s'est amplifié. Puis, elle a entendu une explosion. Elle est formelle. Celui-ci a commencé lentement pour s'amplifier, et uniquement après, cela a explosé. Deuxième témoignage. Troisième. Monsieur Hossin Krina, qui travaillait un crépissage de façade à l'angle de la rue Magnac, a senti comme un vent très fort suivi d'une forte explosion. Lorsqu'il a entendu le souffle, il a jeté sa pelle et mis ses mains sur les oreilles, et juste après, il y a eu une explosion.
Donc il a eu, ça représente peut-être une seconde ou deux, le fait qu'il ait le temps de jeter la pelle. Oui.
Mais c'est des gens qui ont entendu, qui ont vu quelque chose avant que ça
explose. Oui.
Et vos souvenirs de l'expression de la demoiselle dont j'ai étudié les cheveux, mademoiselle Alexandra
Baille. Oui, qui se lève en criant « Merde,
merde. !»
Ouais. Comme si elle avait vu arriver quelque chose sur elle.
Ben oui, et puis son collègue, Wilfran Dermont, qui se précipite dans le fond de la pièce, affolé.
Donc il y a eu un espace de temps entre, un laps de temps entre le moment où les gens ont vu quelque chose et le moment de l'explosion, ce qui exclut une explosion de gaz, parce que dans une explosion de gaz,
GDF est absolument formel. Oui. Ça ne peut pas être une explosion de gaz. Parce que le témoignage, le dossier, le rapport de GDF, on n'en tient pas compte. Pas plus qu'on ne tient compte des témoignages que je viens de citer.
Alors, je vous ai demandé de nous raconter cette histoire parce que, évidemment, elle évoque d'une certaine manière la controverse sur Toulouse. Bien que vous soyez exilé, je pense que vous avez entendu parler de
Toulouse.
Oui. Alors, donc le débat porte sur la question attentat ou accident. 10 minutes après, comme dans le cas de la Maison des Têtes, 10 minutes après l'explosion, le préfet, en direct à l'antenne, disait il s'agit d'un accident.
On ne peut pas le savoir, ça c'est impossible.
Ce qui est impossible à savoir, bien sûr. Et le procureur, lui, assez rapidement, disait... Alors, j'ai dit tout à l'heure 99%, effectivement, il a dit 90%. Il y a quelque chose qui est assez significatif, d'ailleurs, du caractère servile d'une certaine presse en France, c'est que le procureur ayant dit... c'est un accident à 90%.
On peut pas...
Tous les médias ont surenchéri en disant le procureur a déclaré que c'était un accident à 99%. Je dis tous les médias, sauf le Libre Journal qui a rectifié.
Oh,
vous avez vu le Libre Journal qui a rectifié ce petit trucage.
Je vois pas du tout comment. Enfin, à titre d'expert, je vois pas du tout comment un procureur qui n'a bien entendu aucune connaissance scientifique peut se permettre de dire qu'il s'agit d'un accident à 90 ou 99%.
Ça n'a pas de sens, d'ailleurs.
Tant qu'il n'y a pas eu d'expertise de réaliser et d'analyse. C'est totalement impossible.
Oui. Puis ça n'a aucun sens. Un accident à 90%,
c'est
un accident ou c'est un attentat. Donc, quand on ne sait pas, il y a 50% de chance ou de risque que ce soit une des deux choses. Maintenant, l'autre question que je voulais vous poser, c'est celle de la méthode. Vous y avez un peu répondu à propos de la Maison des Têtes de Toulon, mais selon vous, est-ce qu'il est compréhensible que près de 15 jours après l'explosion de Toulouse, on n'ait pas encore la possibilité de dire d'une façon radicale il s'agit d'un accident ou il s'agit d'un attentat.
Non, ça ne tient pas la route. Parce que il existe des moyens d'analyse, bah justement ce que j'utilisais jusqu'en 1991. Hein. C'est extrêmement simple. Hein. Il faut aller regarder au cœur de l'explosion. Je pense qu'il doit être facile à trouver. Et de regarder, de rechercher partout, comme j'ai fait en fait, hein, pour la maison des têtes, rechercher s'il y a des résidus de poudre, s'il y a des résidus de tir, s'il y a des choses comme ça. Et puis il faut recueillir les témoignages aussi. Mais les recueillir pas de façon sélective. Il faut recueillir sérieusement les témoignages.
Alors là, il y a beaucoup de témoignages en France qui vont dans le sens de l'attentat. Et curieusement, je reviens toujours à la maison des têtes, d'un attentat par missile.
Par missile bah, ça peut être... Alors, je vais... Il y a un point que je n'avais pas évoqué. C'est qu'au moment où il y a eu... Pour la maison des têtes, hein, et peut-être que ça pourra être, avoir des relations avec Toulouse, je ne sais pas. Mais en tous les cas, à l'heure précise où la maison s'effondrait, on avait appris le matin du drame par France Inter qu'un incident venait de se produire sur un des bateaux américains en route vers le port de Toulon. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment précis, 21 bateaux militaires français et américains de retour d'exercice en Corse pénétraient en rade de Toulon au moment où la maison s'est effondrée. Et alors, étrangement, ensuite, on n'a plus jamais parlé de cet incident. Mais plus jamais.
Donc, ce qui est assez vraisemblable, c'est qu'il y a eu un accident de tir.
Un accident de tir. Et puis, bon, ben, les missiles fous, ça existe. Il y en a plein, en plus. On n'en parle jamais. Mais ça arrive très, très fréquemment.
En tout cas, c'est du domaine du possible. Alors, à Toulouse, il ne s'agit évidemment pas d'un accident de tir. Il s'agit... Peut-être, si c'est un attentat, et si on peut, il peut s'agir d'une opération du genre de celle de Béziers, où on a vu sortir d'un seul coup un islamiste tirant au lance-roquettes sur une voiture de la police. Et donc, on a découvert à la faveur, si j'ose dire, de cette affaire, que certains groupements islamistes détenaient des lance-roquettes, détenaient des armes de guerre.
Mais il suffit de les acheter, c'est pas un problème.
Oui, il suffit de les acheter, voilà. Mais vous, si vous étiez, dans votre situation actuelle, si vous étiez sollicité par des familles de victimes à Toulouse, vous pourriez venir à Toulouse faire une enquête sur place?
Si je venais à Toulouse, je serais arrêté immédiatement et mis en prison.
Voilà, c'est ça.
Alors,
c'est plus facile comme ça, d'ailleurs.
Ce qui est beaucoup plus facile.
Ouais, c'est évident.
Mais, par contre, s'il n'y avait pas...
Mais heureusement qu'on n'est pas en Union soviétique.
Non, si c'est pire parce que l'Union soviétique maintenant est quand même plus libre, semble-t-il.
Ah ben, elle n'existe plus, donc on est.
Non, pas la Russie, je veux dire. Oui. Non, parce qu'effectivement, c'est le genre de travail qui est non pas facile à faire, mais il y a toute une série de procédures à tenir et à suivre et à respecter. Mais alors, un problème qui doit quand même être soulevé, c'est que maintenant. Suite justement à la disparition, par exemple, de mon laboratoire, qui était un laboratoire malheureusement indépendant, parce qu'il n'aurait pas été indépendant, j'aurais toujours mon laboratoire.
Ouais, bah oui.
Notamment suite à l'histoire de la maison des têtes.
Parce que c'est pour cause d'indépendance qu'il a été coulé, évidemment.
Oui, et puis justement, à ce moment-là, en même temps, je parlais de l'affaire Boulin, je parlais de l'affaire Chalal, parce que c'est moi qui ai sorti de l'histoire de l'appel, enfin les liaisons entre l'appel de trouvé dans la voiture de Chanal, qui est un militaire, oui. Et puis l'appel de la tombe du trou dans lequel il avait enterré une des victimes. Et puis il y a eu l'histoire de la jonque coulée par un sous-marin. Enfin, j'ai sorti tout ça en même temps. Alors évidemment,
ça fait beaucoup.
Ça faisait beaucoup. Et alors, le problème, c'est qu'après ma disparition, enfin la disparition de mon laboratoire, ben maintenant les expertises sont confiées à des laboratoires d'État, manipulés par du personnel d'État, donc payés par l'État. Et quand il s'agit d'une affaire d'État, eh ben donc ce sont des affaires d'État, étudiées par du personnel d'État, manipulant du matériel d'État, et l'ensemble étant payé par l'État.
Ça serait surprenant que l'État soit mis en cause.
Oui, tout à fait. Alors, ça peut être les laboratoires de police. Et alors, si un avocat honnête demande une contre-expertise, mettons que les analyses étaient faites par les laboratoires de police. Il demande une contre-expertise. Ben, la contre-expertise va être faite par la gendarmerie, c'est-à-dire dans un laboratoire d'État animé par du personnel d'État payé par l'État.
Oui, parce qu'un auditeur nous disait pourquoi Total Elf, c'est-à-dire Thierry Desmarais, qui a l'air dans cette histoire de ne pas vouloir trop se laisser monter sur les pieds, pourquoi ne fait-il pas appel à une contre... Enfin, pourquoi ne demande-t-il pas une contre-expertise? Mais là, j'ai la réponse, vous nous donnez la réponse. C'est-à-dire cette contre-expertise...
On peut toujours m'écrire où je suis.
Oui.
Mais...
Oui.
Je peux toujours dire ce qu'il faut faire.
On peut toujours vous envoyer un colis de prélèvement.
Non, je peux toujours indiquer à des gens quoi faire.
Oui. Enfin, comme ça sera des gendarmes, c'est pas absolument certain qu'ils aient envie de suivre vos indications.
C'est pas certain du tout. Voilà.
Loïc Le Ribaud, je vous remercie. Je reprendrai contact avec vous dans quelques temps, parce que vous avez d'autres aventures passionnantes à nous raconter. Je ne rentre pas dans le détail de vos aventures aujourd'hui, mais on peut dire que vous avez vécu une expérience qui est comparable, parallèle, semblable à celle des Beljanski.
Un peu.
Et vous avez commis l'erreur de mettre au point un médicament, un traitement, enfin, qui n'a pas eu l'heure de plaire à la mafia des laboratoires pharmaceutiques.
C'est moi qu'on puisse dire.
Et c'est ce qui vous a valu d'être obligé de vous exiler aussi. C'est-à-dire que, évidemment, vous cumulez quand même un petit peu les ennemis puissants. Hein.
Oui,
la mafia des laboratoires pharmaceutiques, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, ça fait beaucoup.
Oui, plus hein. Le ministère de la Justice, plus le CNRS.
Ouais. Bon, il faut arrêter. Les moutons vous laissent tranquilles, ils vous attaquent pas en bande armée, non ?
Non, ça va. Ils sont tranquilles.
Bon. Merci beaucoup, Loïc Le Ribaud.
Et moi,
à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Voilà, que dire de tout cela ? Eh bien, rien. Je vous laisse méditer toutes ces déclarations. Et on va demander peut-être aux auditeurs de donner leurs avis.
Alors, un auditeur nous dit, minute du 3 octobre, précise qu'un proche de Douste Blasi viendrait de confier que Jacques Chirac, en arrivant sur les lieux d'AZF, aurait déclaré « Je ne veux pas entendre parler d'un attentat ».
Oui, il y avait une connerie à dire. Bingo ! On n'est jamais déçu avec lui, il faut dire. Hein. Jamais.
Dans l'affaire de Toulouse et dans celle de Toulon, il n'y a pas eu revendication. Quelles pourraient en être les motivations ?
Dans l'affaire de ?
De Toulouse et dans celle de Toulon.
Non, mais Toulon, c'était pas un attentat.
C'est autre chose.
Toulon, il y a une hypothèse. C'est pour l'instant du domaine de l'hypothèse. C'est que c'est un incident de tir, tout simplement. Il y a un midship, parce que c'est certainement un bateau américain. Ça peut pas être un bateau français, qui a dû appuyer sur le mauvais bouton parce qu'il avait bu un mauvais whisky. Et bouf ! Voilà. Oui, monsieur Amiche ?
Bonsoir, auditeurs. Je veux dire aussi que dans l'affaire de New York et de Washington, il n'y a pas eu de revendication non plus.
C'est vrai. Alors donc, c'est pas un attentat. C'est peut-être un habitant de la tour qui se faisait chauffer des merguez sur un réchaud à gaz, savoir.
C'est une crêpe.
Je vous lis les
oui.
Les
surtout
messages.
Surtout ici, ils sont grossiers. Hein,
ils sont revenus. Ils reviennent sur tout ce qui a été dit au début. Alors, Madame Sylvie Portier, présidente du tribunal de la 11e chambre correctionnelle de Paris. Sophie Portier, qu'est-ce que j'ai dit ?
Sylvie, c'est pas grave.
Mon Dieu, c'est mal écrit, je vois pas clair. Pourtant, il y a une belle lampe aujourd'hui.
Oui. Alors, je vais quand même dire aux auditeurs, on a changé l'éclairage du studio, on a l'impression qu'on est dans la chambre froide d'une boucherie en gros.
Oui, mais là, au moins, on voit clair. Hein, on peut choisir sa vie.
Jean-Pierre Maugendre, il a vraiment un teint cadavérique.
Il n'y a pas besoin de frotter la lampe pour savoir qu'il y a des génies autour de cette table.
Oui, c'est vrai, merci.
Bon, je continue. Bon, donc, Madame Sophie Portier est une femme courageuse, car c'est elle qui a été récusée dans l'affaire du Parti communiste alors qu'elle avait donné à Monsieur U des peines sévères.
Eh ben, on a dit qu'elle était courageuse.
Ben, on le redit.
Ah ben oui, bien sûr.
Nos bien auditeurs d'accord. Confirment. Je ne comprends pas.
On n'a pas peur de prendre
retour
bille
sur
en tête
vos ennuis personnels. Je ne comprends pas. Serge Lebecq dit que le papier coûte de plus en plus cher et ceux qui ont été victimes de la tempête ont eu leur bois acheté 4 fois moins cher que le prix normal.
Eh ben oui, c'est bien ça, je ne comprends pas non plus.
Et une autre auditrice confirme, même gratuitement maintenant, les papetiers n'acceptent plus d'enlever les arbres cassés. Ouais. Parlez-nous de ce projet de faire des logements sociaux dans les beaux quartiers de Paris. Est-ce que...
Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, parce que dans les beaux quartiers...
Et à qui va-t-on les donner ?
Bah, à qui voulez-vous qu'on donne des logements sociaux ? Aux asociaux, puisque c'est pour les socialiser. Donc, eh bien, c'est très bien fait. Vous n'avez qu'à bien voter. Hein. Vous regardez les scores de la droite nationale, c'est dans les beaux quartiers qui sont les plus mauvais. Donc, c'est bien fait pour vous. Voilà.
Oui.
Donc, vous avez pas encore assez de chance, on va vous en donner un peu plus.
Oui, il y en a marre. Hier, j'ai été agressée après 14 heures de travail sur le trajet de retour. En voiture, pendant une demi-heure, j'ai été suivie par un motard qui, à chaque feu rouge, donnait des coups de pied dans mes portières. Finalement, je descends de voiture pour l'interpeller. Il enlève son casque intégral. Je vois qui c'était. Et il se précipite vers un quart de police en m'accusant de propos racistes, en affirmant que je conduisais comme si j'étais ivre. Il leur a demandé de me faire souffler dans le ballon. Devant mes dénégations et ma colère, les flics ont laissé partir le motard et j'en ai eu pour plus d'une heure de vérifications diverses. La prochaine fois, je me ferai justice moi-même car c'est un scandale. Tant pis.
Ouais.
Le terrorisme, comme l'invasion immigrée, ne se nourrissent que de nos faiblesses et de notre lâcheté, tant physique qu'intellectuelle et morale.
Absolument.
Consistant notamment à accepter tous les mensonges officiels. Combien de victimes y a-t-il eu à Toulon en 1989 ?
13.
Jacques Pradel en avait parlé à ses émissions sur TF1.
13, Loïc Leribaud nous a dit 13 tout à l'heure.
Je me demande si la volonté de formuler sa pensée sous forme de statistiques n'est pas une preuve manifeste d'objectivité et d'indépendance intellectuelle. Hier, il y a eu une très forte explosion dans le 15e, boulevard Lefebvre.
A-t-on encore un coup des intégristes.
Des informations sur cette explosion.
Boulevard Monseigneur Lefebvre, une explosion.
Et qui a été officiellement attribuée à une bouteille de gaz. Pour ma part, j'ai entendu deux explosions séparées d'une minute environ, comme lorsqu'on faisait sauter les boîtes de nuit dans les années 70 à Paris.
Qui faisait sauter les boîtes de nuit ?
Je ne sais pas, c'est pas précisé. Autrefois, j'ai déjà entendu une explosion due au gaz. Cela n'a pas fait du tout le même bruit.
Bon, et ben voilà. Donc, j'espérais qu'il y aurait quand même un message pour venir, on parlerait des choses du début, pour dire, mais comment peut-on ne pas être abonné au Libre Journal ? 700 francs, 4 places Franceville, 75, 0,10 Paris. Personne n'a fait cette réflexion, je m'en étonne.
Faut que tu dises le prix en euros, parce que ça va sembler moins cher.
Ah non, tu sais que c'est mon grand drame, parce que je ne veux pas indiquer le prix en euros, je ne sais pas du tout comment je vais faire.
Pour un peu plus de 100 euros, vous pouvez t'abonner pendant un an au
Non, si vous envoyez des euros, j'envoie pas le journal, c'est aussi simple que ça.
Oui, mais comme il n'y aura plus autre chose.
Tant pis, envoyez-moi des cacahuètes, des dollars, des francs suisses, des dirhams, 12 brouettes de dirhams, de l'or,
des actions de Swissair, c'est bon ça.
2 écus. Bien, alors maintenant, venons aux choses sérieuses. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le professeur Joyeux vient de publier un livre qui s'appelle « Femmes, si vous saviez », et qui est un livre tout à fait capital, dans la mesure où il est consacré à un gros problème de santé, une question de santé extrêmement grave, et de plus en plus grave en ce moment, et le professeur Joyeux est lui aussi... d'une certaine manière un résistant à l'ordre établi, parce qu'il dit des choses qu'il ne devrait pas dire et qui lui attirent des tas d'ennuis. Mais la différence, c'est que le professeur Joyeux, c'est pas tout à fait n'importe qui. Alors j'ai demandé à Madame de Billy de nous présenter le professeur. On va la voir au téléphone tout à l'heure. On lui posera des questions sur son livre, mais je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le présente, parce que je soupçonne cet homme d'être... suffisamment modeste pour ne pas nous dire ce qu'il est vraiment et pour pas mettre en lumière ses nombreuses qualités. Donc, Madame de Billy, si vous voulez nous dire qui est le professeur Joyeux.
Alors, bonjour, le professeur Joyeux est chirurgien cancérologue, professeur à la faculté de médecine de Montpellier. Le professeur a reçu de nombreux prix. En 85, il reçoit le prix international de cancérologie. Il a été le fondateur de la Société française de nutrition artificielle en 1980. Inventeur avec le doyen Solasol, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, des fameux mélanges nutritifs qui ont permis la vie la plus longue en nutrition intraveineuse à une patiente pendant 18 ans. Chef de service et de chirurgie digestive et viscérale à l'Institut Curie à Paris, de 1992 à 1995, il a mis au point des techniques chirurgicales de traitement avancé des cancers de l'ovaire. Chirurgien, universitaire, passionné par la recherche scientifique, le professeur Joyeux a toujours mené de front une carrière brillante avec la passion de ses convictions médicales, humaines et spirituelles. Il est l'auteur de nombreux ouvrages médicaux et traités scientifiques. Et pour le grand public, il a publié récemment « Changer d'alimentation, choisissez de vivre » aux éditions de L'Œil, François de Guibert. 4 éditions successives ont montré le très grand succès de ce livre et l'attente et la très grande attention du grand public qui a pris conscience que le cancer n'est pas une fatalité et que nous sommes responsables de ce que nous mettons dans notre assiette. Plus récemment, en 1997, il publie « Prévenir les cancers du sein », toujours aux mêmes éditions. Sa conviction, son humanisme, la très grande clarté de ses propos en font un communicateur et un conférencier exceptionnel, très proche de ses malades, des jeunes et du grand public. Et récemment, donc, Femmes, si vous saviez, hormones, ménopause, ostéoporose, 2001.
Alors, vous dites que c'est un conférencier et un communicateur hors pair. Je voudrais signaler tout de suite aux auditeurs, parce qu'ils vont me poser la question, donc leur dire tout de suite qu'ils pourront vérifier cette assertion. Le 16 octobre, mardi, c'est mardi prochain, 16 octobre. Non, dans 15 jours. Décidément, chaque fois que j'essaie de donner une date, moi je me prends les pieds dans le tapis. Mardi 16 octobre 2001, à 20h, à la Maison de la Mutualité, il donnera une conférence débat, dont le titre est celui de son livre, « Femme, si vous saviez, prenez votre santé en main ». Et les sujets, c'est hormones, ménopause et ostéoporose. C'est donc le sujet de ce livre, et c'est un livre que François-Xavier de Guibert a édité. Alors, François-Xavier de Guibert, pourquoi avez-vous édité ce livre? Qu'est-ce qui vous... C'est pas vraiment votre sujet de prédilection, les questions
éducatives. Nous avons, avec le professeur Joyeux, fondé, il y a plus de dix ans maintenant, une collection qui s'intitule Écologie humaine et qui est un peu le département de médecine de notre catalogue d'édition. Et cette collection a pour objectif d'approfondir la question médicale sous un angle essentiellement humaniste et de montrer à quel point, dans le fond, il y a une cohérence, si vous voulez, entre la sauvegarde de ce qui est bien pour l'homme et la connaissance de l'homme du point de vue scientifique. Et donc c'est cette cohérence, si vous voulez, à la fois humaniste et médicale, que nous avons essayé de développer dans cette collection. Le premier titre a été un très grand succès, il s'appelait « Changer d'alimentation », comme vous l'avez rappelé. Le premier titre d'ailleurs du même ouvrage était un petit peu différent, il s'appelait « Aliments et cancer ». Puisqu'en fait, c'est à partir de ces recherches de cancérologie que le professeur Joyeux a approfondi les questions. Donc alimentation et cancer étaient devenus changer d'alimentation, puisque en fait sa conviction était qu'il fallait à tout prix essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il y avait un lien entre l'alimentation et le cancer. C'était un propos qui, il y a une quinzaine d'années, n'était pas si évident que ça. Certains chercheurs non scientifiques avaient depuis très longtemps attiré l'attention sur ces questions. Mais le professeur Joyeux a pensé qu'il était indispensable que des scientifiques établissent d'une manière stricte, sérieuse, rigoureuse, avec une épidémiologie factuelle, si vous voulez, les interactions entre l'alimentation et le cancer. Et de ce point de vue, ce livre, qui a été un succès formidable, puisqu'on a fait quand même presque 200 000 exemplaires, ce qui, après tout, n'est pas si fréquent, et qui, par rapport aux chiffres des succès de l'édition aujourd'hui, donne à rêver, mais bon, voilà. Ce livre a été un très grand succès, et je crois qu'il a permis de lancer la collection, et il a permis, si vous voulez, de montrer à quel point, finalement, une recherche scientifique rigoureuse, d'une part, avec un souci humaniste, d'autre part, bien c'était non seulement compatible, mais même nécessaire. Alors, sur ces entrefaites, était paru en Angleterre dans les années 85 et suivantes un livre qui s'appelait Bitter Pill, amère pilule. Et Bitter Pill, qui était le livre écrit par un médecin anglais, spécialiste de la contraception chimique, a eu en Angleterre un succès colossal, puisqu'il a été vendu à près d'un million d'exemplaires. Là aussi, ça donne à rêver. Et le professeur Joyeux a été passionné par ce livre et il nous a aidés à le traduire en français sous le titre « Amère pilule », qui est en fait le décalque du titre anglais et qui conserve d'ailleurs un petit peu le même jeu de mots. Et ce livre était d'ailleurs et toujours disponible et préfacé par le professeur Lucien Israël, qui posait déjà d'une manière forte la question, si vous voulez, de l'interdépendance entre la prise d'hormones et les cancers féminins.
C'était
un premier travail que nous avions fait ensemble et derrière lequel le professeur Joyeux s'était engagé et qui en fait consistait à poser des questions. Mais ces questions, évidemment, elles n'ont pas été très bien reçues, puisque en France, hélas, nous n'avons pas fait 1 million d'exemplaires, et qu'en dépit de sollicitations multiples et d'envois de services de presse généreux, nous avons fait très péniblement 10 000 exemplaires, ce qui, en fait, est vraiment faible, compte tenu...
Ce qu'il faut dire, pardon de vous couper, François-David Guibert, c'est que ce livre n'a absolument eu aucune promotion...
comme nous sommes évidemment une petite maison d'édition, oui, nous n'avons pas de moyens de payer des placards publicitaires, etc., etc. Nous avons seulement le moyen de distribuer aux gens que nous pensons devoir s'intéresser, si ce sont des journalistes d'investigation, c'est-à-dire vraiment qui cherchent, un ouvrage documenté fait par un médecin anglais qui elle-même avait été une fervente partisan de la contraception chimique, et qui d'ailleurs la revendique de l'avoir suivi personnellement, et qui, devant les résultats épidémiologiques en Angleterre, au bout d'une quinzaine d'années, a considéré que il fallait, si on était un scientifique honnête, ce qui est assez fréquent en Angleterre, parce que ce sont des gens factuels, il faut prendre conscience des faits. Et elle a considéré qu'il était de son devoir, selon une déontologie professionnelle évidente, d'écrire ce livre pour dire qu'il fallait arrêter. Parce que c'était pas possible que ça continue.
Alors,
Donc elle a poussé ce cri qui en Angleterre a été tout de même en tout cas entendu. Je sais pas si ça a modifié le comportement des uns et des autres, mais en tout cas ce cri a été entendu et il a donné lieu à un débat. En France, le débat a été empêché parce qu'en fait c'est plus simple comme ça. Alors, il se trouve que le professeur Israël lui-même posait un certain nombre de questions dans sa préface en disant la relation avec le cancer, c'est une question, il faudrait aller plus loin, approfondir, etc. Il se trouve que 10 ans après, Henri Joyeux, qui est un cancérologue réputé, comme Chantal Deby l'a dit tout à l'heure, a considéré que l'explosion des cancers féminins, on a beau dire, c'est quand même un fait. C'est un fait clinique qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main. Et il faut tout de même avoir le courage de se poser des questions et d'aller donc plus loin dans le même sens. Des investigations. Il a donc fait paraître un certain nombre d'articles dans la presse qui ont, au début de l'année 2000, donné naissance à un début de polémique et d'échange. Et évidemment, ça s'est arrêté très vite parce que c'était évidemment pas tout à fait correct. Bon. Alors, quand on n'a pas d'autres moyens, et bien finalement, on a recours au bon vieux moyen qui est la bicyclette. C'est le livre. On refait un livre en disant, on va trouver dans un livre le moyen un peu archaïque et finalement prosaïque, mais enfin c'est un moyen qui fait son petit chemin et qui permet de faire passer des idées. Et donc il a décidé de répondre aux questions d'un certain nombre de femmes qui l'ont interrogé, parce qu'en fait les questions qu'il posait dans les articles qui ont pu être publiés étaient des questions qui les inquiétaient. Est-ce que la prise d'hormones au moment de la ménopause, c'est anodin? Est-ce que finalement on peut y aller tranquillement? Est-ce que tout ça ne pose pas de questions? Et donc ces femmes se sont... Il y a eu un... Parce que tout ça est en même temps archaïque, enfin je veux dire, le livre c'est quand même encore un moyen qui existe, c'est un moyen très classique, c'est un moyen qui a fait ses preuves, mais il y a eu des liens par email. Donc, vous voyez, nous sommes tout de même en même temps très branchés. Et il y a un collectif de femmes qui s'est créé sur cette question pour certaines d'ailleurs atteintes d'un cancer, d'autres n'ayant pas rencontré cette épreuve difficile, pour demander au professeur Joyeux d'aller plus loin et d'approfondir. Et le livre est le résultat, si vous voulez, de cette demande de la base d'une information. De femmes qui se posent de plus en plus de questions. Est-ce que finalement il est légitime, il est bon, il est prudent d'aboutir à une médicalisation grandissante des diverses étapes de la féminité? Ou est-ce qu'au contraire il ne faut pas se poser maintenant des questions? Et donc le professeur Joyeux a souhaité leur répondre, et le livre est le résultat de ce dialogue.
Alors, c'est un livre qui s'intitule « Femmes, si vous saviez », 83 questions et réponses, et il est présenté comme ça, il est présenté d'une façon très simple, c'est-à-dire que, page après page, on pose au professeur Joyeux une question, et on lui demande de répondre. Et il répond d'une façon, simple, brève, claire, et très ferme.
C'est un livre, en plus, je dirais, qui est scientifiquement fondé.
Oui, alors c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que, pardon, ce qui est très important dans le cas du professeur Joyeux, c'est que, en général, ces questions-là sont traitées par des gens sans doute compétents, mais qui n'ont pas l'image professionnelle, le statut scientifique du professeur Joyeux. Ce sont des gens qui travaillent en général sur les médecines holistiques, qui s'intéressent à l'homéopathie, ou qui font des... on peut toujours leur coller une espèce d'étiquette d'aimable charlatan ou de plaisantin. Bon, dans le cas du professeur Joyeux, Madame Debille nous a donné tout à l'heure son CV, comme on dit élégamment, c'est difficile. On peut difficilement contester la validité de ses travaux. Et ça donne à son livre une force d'autant plus grande. Et c'est un livre qui, à mon avis, est capital, parce que c'est un livre qui met en lumière des choses extrêmement graves, extrêmement inquiétantes. Non seulement sur la réalité des effets des produits en question, mais sur le travail de camouflage, le travail de censure, le travail de désinformation qui est effectué autour de ces questions-là. Et on a vraiment le droit de se poser la question des motifs profonds des gens qui veulent cacher la vérité. Parce que c'est pas le seul domaine dans lequel ça se passe. Je crois qu'on a le professeur Joyeux au téléphone.
Oui, bonjour.
Bonjour, professeur. On me dit que la liaison n'est pas très très bonne parce que...
Moi, je vous entends très bien.
Bon, eh ben, écoutez, j'espère que...
J'ai parfaitement entendu tout ce que vous avez dit et qui me paraît fort juste, à la fois vous-même et monsieur de Guibert.
Mais je vous remercie. Alors, la première question que je vous poserai, c'est une question qui est pas de l'ordre du scientifique, mais plutôt de l'ordre humain. Où avez-vous puisé, d'abord, est-ce que vous vous attendiez à susciter par vos travaux des réactions aussi négatives dans certains milieux? Vous le saviez?
Bien sûr, nous nous attendions à tout cela. Je m'attendais à tout cela parce que je connais bien la pensée de beaucoup de mes collègues et je sais très bien que beaucoup de mes collègues, si vous voulez, ont une certaine peur de dire des choses qu'ils savent parce qu'il y a ce qu'on appelle le médicalement correct. Il n'y a pas, vous savez, que le politiquement correct, il y a le médicalement correct aujourd'hui, et je fais partie des gens, entre guillemets, médicalement incorrects, tout en étant très respectueux de mes collègues du Conseil de l'Ordre. Je connais bien d'ailleurs le président du Conseil de l'Ordre qui est un ami, et je suis sûr que nous partageons beaucoup de points de vue, mais vous savez, dans certaines positions, on a plus de facilité à parler que dans d'autres.
Et comment pouvez-vous expliquer, est-ce que vous avez une explication au fait que, dans un domaine aussi important que la santé publique, des intérêts parasites puissent intervenir?
C'est très facile à expliquer. Si vous prenez, et c'est pas dans notre pays, donc c'est facile, l'histoire du médicament anti-cholestérol cet été. Il s'agit d'un excellent médicament. Mais le laboratoire a préféré que ce médicament soit utilisé larga manu à 95% des gens qui ont une hypercholestérolémie, plutôt que de donner aux 5% qui en ont besoin. Moyennant quoi? Aujourd'hui,
donc ça, c'est une question financière. C'est
bien sûr. Mais ce que vous avez là-dessous, c'est pas une question philosophique. C'est d'abord et avant tout une question financière. Il y a de l'argent là-dessous, et cet argent est stimulé, si vous voulez, par les laboratoires pharmaceutiques. Et Dieu sait que je suis favorable à la recherche des laboratoires, mais je ne suis pas favorable à des excès, si vous voulez, qui mettent en danger la vie des gens. Ça se situe exactement sur ce plan-là.
Quelles sont les répercussions sur votre vie quotidienne? Est-ce qu'il y en a?
La vie quotidienne, c'est très simple. Nous sommes, nous cancérologues aujourd'hui, véritablement noyés par le nombre de personnes, de malades que nous voyons avec des cancers du sein. Alors ça, c'est quand même, si vous voulez, quelque chose de grave, parce que le problème, c'est que l'on nous dit, c'est que nous sommes meilleurs, si vous voulez, parce que nous avons de plus grands moyens diagnostiques, scanners, IRM, échographie, etc. Ça, c'est vrai. Mais attention, nous ne découvrons pas des cancers du sein chez des femmes de 85 ans, cela nous le découvrons facilement, nous savons qu'il y en a, les autres découvrons comme avant, mais surtout nous découvrons des cancers chez des femmes de plus en plus jeunes, c'est-à-dire chez des femmes chez lesquelles auparavant on ne voyait jamais de cancer. Et c'est ça qui est inquiétant. Nous avons augmenté...
Pardon professeur, je voudrais revenir là-dessus. Vous nous dites, il y a une certaine une certaine proposition, une certaine opinion qui consiste à dire, c'est pas qu'il y a plus de cancers, c'est tout simplement qu'on les identifie.
Oui, qu'on est meilleur pour les identifier.
Voilà. Vous vous dites alors, pas du tout, il y en a beaucoup
alors,
plus.
Alors, attention, je dis quand même que c'est vrai que nous sommes meilleurs pour identifier un cancer aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas de doute, on a des meilleurs moyens diagnostiques. Cependant, nous avons une augmentation de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas de cancer du sein, qui est absolument anormal. Avant, nous avions grosso modo entre 7000, disons, et 8000 nouveaux cas de cancer du sein. C'était dans les années 75-80. Nous sommes à 35000. Et nous avons une augmentation qui était prévue de 2% par an. Nous sommes actuellement à 4% par an.
Mais c'est phénoménal.
Avec la moitié des nouveaux cas que nous voyons, ce sont des femmes jeunes, avant 50 ans, et parfois très jeunes, avant même 30 ans.
Mais est-ce que vous êtes d'avis que la majorité, enfin que la raison principale de cette augmentation doit être portée au débit des produits, enfin des hormones de synthèse ou des hormones
alors,
en général.
La majorité, d'abord, un cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Que ce soit bien clair, c'est de la physiopathologie, comme nous disons en termes scientifiques, c'est-à-dire quelle est la cause de ces cancers. 5% sont d'origine génétique, 5 à 8% exactement. Les restes, ça fait quand même beaucoup, pratiquement 92%, ne sont pas d'origine génétique. Or, les cancers du sein, nous les traitons aujourd'hui avec des anti-hormones, avec des chimiothérapies qui sont des médicaments anti-hormonaux. Ça veut dire que quand on donne un traitement à une femme anti-hormonale, ça veut dire que la cause du cancer était une cause hormonale. Mais c'est là que mes collègues ne sont pas clairs, parce que beaucoup disent « je donne à cette femme un traitement hormonal ». Et je lui réponds « non, tu ne donnes pas un traitement hormonal, tu lui donnes un traitement anti-hormonal ». Sois clair. Oui, mais les gens n'y comprennent rien. Pas du tout. Les gens sont intelligents. Les femmes sont intelligentes, et à mon avis, il faut être clair avec elles. Elles sont parfaitement capables de comprendre. Et quand vous avez une jeune femme de 35 ans qui est atteinte d'un cancer du sein, c'est quelque chose de grave. Ça veut dire qu'elle va avoir des chimiothérapies qui sont lourdes, qu'elle sera hospitalisée, qu'elle va devoir quitter sa famille, ses enfants, etc. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et je crois que ces cancers-là, la médecine aurait pu les éviter.
Est-ce que vous pensez que elle pourrait les éviter par prévention, par
elle pourrait les éviter,
évitement,
si vous voulez, en donnant des informations aux femmes, en leur disant, écoutez, sachez qu'en prenant cela, vous pouvez prendre des hormones pendant un an ou deux ans pour passer un cap, pour une difficulté particulière, pour un besoin, si vous voulez, je dirais, sociologique. Mais sachez que ce médicament que vous prenez, c'est un médicament puissant. Au Japon, nous avons très peu de femmes atteintes de cancer du sein. Alors on nous dit, c'est l'alimentation des Asiatiques. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est que les femmes japonaises ne consomment pas des hormones comme on prend de la mie de pain en France. Vous comprenez ?
Pour être parfaitement clair, professeur.
Par exemple, je vous donne un exemple. Une femme vient me consulter. Elle a un cancer du sein. Je lui dis, madame, est-ce que vous savez pourquoi vous faites un cancer du sein? Alors, réponse, ben, le psy m'a dit que c'était parce que j'avais un conflit avec ma mère. Mais toutes les femmes ont un conflit avec leur mère, vous comprenez? C'est pas ça qui donne des cancers du sein. Je lui dis, mais est-ce que vous avez pris des hormones dans votre vie?
Ben non,
je suis écolo. Je suis écolo, je prends pas d'hormones. Et puis, quand vous interrogez un petit peu de près, vous vous rendrez compte qu'elles ont pris des hormones soit au moment de la ménopause, alors maintenant, quand même, elles commencent à le savoir. Soit qu'elles ont pris, en moyenne en France, 12 ans d'estroprogestatif, et ça, c'est quand même
c'est
pas...
C'est-à-dire de pilules anticonceptionnelles, c'est...
Ah ben, vous savez, ça, c'est le ça. Mot que vous avez utilisé. Oui. On n'utilise plus ce mot en France. C'est interdit d'utiliser ce mot en médecine. Or, les estroprogestatifs, moi, je ne suis pas contre la contraception. Je suis très favorable à ce que les femmes aient des enfants quand elles le désirent. Mais je ne suis pas favorable à ce qu'il n'y ait que les femmes qui prennent les risques. Pourquoi les hommes ne prendraient pas eux-mêmes des contraceptifs? Le préservatif est extrêmement efficace.
Okay, il y a d'autres solutions.
On l'utilise pour le sida. Il y a le préservatif masculin, il y a le féminin, il y en a pour toutes les tailles, il y en a pour toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Eh bien, je dirais que ça, c'est pas dangereux, vous comprenez? Alors que de consommer des hormones chimiques et de les donner aux femmes sans les prévenir de ce qu'on leur donne, moi, je dis que c'est profondément malhonnête dans un siècle qui se dit scientifique.
Vous avez donc la certitude absolue que...
C'est pas moi qui ai la certitude, monsieur, enfin, c'est la science.
C'est ça, oui, vous avez...
C'est-à-dire que nous avons des preuves scientifiques aujourd'hui, et ces preuves, elles sont occultées.
Bon, mais alors comment est-ce...
Et quand mes collègues me disent, tu vas trop fort, tu dis trop la vérité, je suis désolé, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de dire les choses, les gens sont intelligents, il faut stimuler l'intelligence du grand public.
Mais alors comment expliquer un phénomène qui est aussi évident, qui est prouvé, surabondamment démontré, puisse être non seulement ignoré, mais étouffé,
alors,
censuré par un système qui, par ailleurs, prétend prendre en main la santé publique.
Ah ben alors là, vous avez une donnée philosophique importante, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, la médecine, et en anglais ça s'appelle les médecines, c'est-à-dire les médicaments, vont vous guérir de tous les maux et vont même vous prévenir la maladie d'Alzheimer, le problème de l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'on est passé dans une médecine préventive avec des médicaments préventifs. Alors ce sont des comportements, ce n'est pas la même chose. Et là nous touchons à une philosophie de la médecine. Moi je dis personnellement, et c'est pas un problème de philosophie, c'est un problème qui est démontré aujourd'hui par toutes les études scientifiques, on peut, en aidant les gens à avoir des comportements alimentaires, à avoir des comportements sociologiques, à avoir des comportements relationnels, on peut ainsi éviter beaucoup de cancers.
Oui, mais alors, ça revient à la question que je vous posais. Comment peut-on expliquer, parce que tout à l'heure, on a bien vu que, en ce qui concerne le comportement du complexe pharmaceutico-industriel, il y a un intérêt financier direct. Bon, mais quand il s'agit de l'État, on voit pas quel intérêt
l'État... Ah non, mais l'État, c'est très simple. L'État, il considère, parce que l'État n'est pas médecin, n'est pas scientifique. Donc l'État, il écoute, si vous voulez, un certain nombre de scientifiques qui lui racontent des balivernes en lui disant « on va guérir de tout avec la médecine ». Vous comprenez ?
Mais quand on voit les statistiques que vous publiez, les courbes que vous publiez, même un ministre actuel est capable de lire les statistiques.
Mais pour ça, il faut des informations, monsieur, lui arrive au ministre. Ouais. Or, beaucoup de ministres n'ont pas les informations. Ils ont les informations d'un certain nombre de lobbies. Seulement, je ne représente pas un lobby. Nous sommes trois en France. Il y a Lucien Israël qui le dit. Il y a Daniel Dargent à Lyon qui le dit d'une façon peut-être un peu plus douce que moi. Et moi, étant chirurgien, j'ai l'habitude de dire les choses clairement.
Parce trois, que quand
on a un problème, on dit les choses clairement.
Trois, c'est un début de lobby, hein.
Comment ?
Trois, c'est un début de lobby.
Oui, mais moi, je cherche pas à faire du lobby pour du lobby, vous comprenez. Ce que je crois, c'est que aujourd'hui, le vrai lobby, je vais vous dire qui c'est le grand public. Voilà, c'est le grand public qui doit être informé, et le grand public est intelligent, et vous jouez le rôle, vous, positif, en tant qu'homme de médias, pour informer ce grand public, et je vous en remercie.
Mais je vous en prie, c'est vraiment, s'il y a une chose qui justifie le métier que je fais, c'est bien celle-là, c'est d'essayer de casser la loi du silence et de sortir de l'enfermement du politiquement ou du médiatiquement ou du médicalement correct.
Et c'est pour ça que j'ai accepté de donner une conférence à la mutualité.
Voilà.
Et que cette conférence est une conférence importante parce que je répondrai de façon tout à fait transparente à toutes les questions qui me seront posées.
Alors c'est une conférence...
De la même façon sur l'email, par le courrier électronique.
C'est une conférence débat, donc,
ça veut dire que
les personnes qui viendront assister à cette conférence pourront vous poser des questions directement.
Tout à fait, à la fois directement et oralement ou sur des papiers anonymes pour ceux qui seront plus gênés pour poser des questions.
Ouais. Ça, c'est très rare parce que la mutualité, en plus, c'est dans une grande salle.
Absolument, je crois que c'est une grande salle de plus de 1000 places, mais qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a énormément de demandes d'informations sur ces sujets-là. Que ce soit des femmes autour de la ménopause, au-delà de la ménopause. Et ce qui me frappe aussi, je l'ai vu récemment dans des conférences, c'est que les hommes posent des questions. Parce que vous savez, femmes, si vous saviez, au fond, c'est un sujet, les hommes se disent, mais est-ce que moi, homme, je le sais, ce que les femmes ne savent pas ou ce que les femmes cherchent à savoir?
Oui, mais là, on est une fois de plus dans un débat qui sort du débat médical, qui est presque un débat métaphysique. C'est que tout le système actuel tend à essayer de provoquer une rupture entre l'homme et la femme, en disant ça c'est des affaires de femmes, c'est pas à vous de vous en occuper, et en disant aux hommes, écoutez, c'est pas votre affaire, et aux femmes, vous réglez ça entre vous, c'est pas le problème des hommes. On voit ça dans tous les domaines, et notamment dans le débat sur l'avortement. Moi, combien de fois j'ai eu cet argument, mais ça ne vous regarde pas. Alors, je sais pas si les enfants se font tout seuls, évidemment ça ne regarde pas, mais comme, sauf exception, et quand même assez rarissime, parce qu'une fois dans toute l'histoire de l'humanité, ça fait pas un cas. Eh bien, sauf exception, on est à deux pour faire des enfants, et je trouve qu'on ne pourrait être à deux pour parler de ces questions-là.
Mais bien entendu, je suis complètement d'accord avec vous.
Eh bien, écoutez, je souhaite que vous ayez... je sais d'ailleurs que vous aurez de très très nombreux auditeurs à votre conférence. On me parle d'une autre conférence que vous donnez le 12 octobre. Où est-ce que c'est une confusion ?
Non, je crois que le 12 octobre, vous savez, j'ai beaucoup de conférences. À l'heure actuelle, il y a énormément de demandes. Je donne également une autre conférence le 12, je crois que c'est sur Paris.
C'est autre chose.
Mais dans le domaine alors de l'alimentation, plus strictement, de la nutrition et des relations entre l'alimentation et le cancer, puisque nous avons fait des études sur la comparaison entre les aliments venant de l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée et de l'agriculture conventionnelle. Et là, il y a des résultats extrêmement intéressants. L'étude est en cours, mais peut-être que c'est pas trop le moment d'en parler.
Bon. Merci, professeur. Merci d'avoir pris la peine de nous répondre, d'autant que je sais que vous êtes très occupé, que vous aviez beaucoup de travail sur place, et notamment des interventions, et que vous avez eu la gentillesse de nous répondre alors que vous avez peu de temps. Au revoir, professeur.
Au revoir, monsieur.
Voilà, alors je me rends bien compte qu'on n'a pas fait le tour de la question, on n'a même pas fait le tour de la salle d'attente. Je crois que pour approfondir le sujet, il y a deux solutions. La première, c'est d'aller à cette conférence qui sera certainement passionnante, parce que on entend bien à la voix, vous aviez raison, Madame Deville, nous dire tout à l'heure que c'est un homme de communication et on sent qu'il y a un enthousiasme, il y a un dynamisme, c'est un homme, il y a une séduction qui joue, là, c'est clair.
Et je voudrais revenir sur une chose, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est le point de vue des hommes sur cette question. Je veux dire que très très simplement, en préparant ces différents livres avec lui, comme éditeur, d'abord sur Amère Pilule, ensuite Femme si vous saviez, prévenir les cancers du sein, etc. Ce qui m'a frappé, notamment dans Amère Pilule et Femme si vous saviez, c'est que finalement nous hommes, on ne sait pas grand-chose sur toutes ces questions, et que on a tendance d'ailleurs, par paresse et par confort, à privilégier les explications sur ces questions-là les plus sécurisantes et les plus paisibles. Et je dois dire que quand on lit ces livres et qu'on aime la femme avec laquelle on vit, on se dit très franchement, c'est pas possible que je lui laisse prendre quelque chose comme ça et que je lui laisse prendre des risques pareils. Je veux dire que moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont des livres qui doivent être aussi lus par les hommes. Ça me semble extrêmement important, et je dois dire que personnellement, c'est une lecture qui m'a pas laissé indifférent, et je veux dire, on n'en sort pas indemne.
Voilà, mais c'est un livre très simple à lire. Je le répète parce que c'est très important, je crois, de savoir qu'on ne va pas rentrer dans de la patouille bavarde, etc. Il y a des questions.
Donc c'est très factuel, très simple.
Voilà. On demande par exemple au professeur, vous semblez justifier dans tous les cas des traitements à la ménopause, alors pourquoi ne voulez-vous pas du THS? Alors il répond, voilà, attention, je crois que la ménopause est une période spéciale de la vie d'une femme, etc., etc. Et il dit, en tant que cancérologue, je suis effrayé par l'augmentation considérable du nombre de nouveaux cas, etc. Bon, ensuite, on lui dit, mais dites donc, vous êtes contre la contraception? On lui dit, pas du tout, il s'explique là-dessus. Que pensez-vous des traitements hormonaux donnés pour l'acné à nos filles dès l'âge de 14 ans? Alors il répond de façon très précise, en disant, en France, depuis 1990, 65 000 jeunes filles et 60 000 jeunes gens suivent un tel traitement. En 96, la presse révélait que 300 grossesses avaient dû être interrompues car les jeunes filles étaient, entre guillemets, tombées enceintes, car elles n'avaient pas pris en même temps que la roaccutane la pilule. Bon, on voit que c'est un homme qui naturellement connaît son sujet, et qui en plus, c'est pas seulement un clinicien, c'est aussi un homme, on voit bien un homme de contact avec le patient, qui sait exactement quelles questions pose le patient, ce qui l'intéresse et comment lui faire passer le message. Et ça, à mon avis, c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions, des messages, des remarques, Victoria? Vous m'avez tout passé.
Je les ai données au fur et à mesure, oui.
Bon, alors, par exemple, on me dit, je voulais juste témoigner ce soir sur le problème des traitements hormonaux proposés. Je dirais même plus, donner de force aux patientes. J'ai 43 ans et mon père, ancien chirurgien généraliste, m'a fait promettre de ne jamais prendre de traitements hormonaux pour la ménopause, car pour lui, c'est dangereux, ça provoque des cancers du col et du sein. Je peux vous dire que la pression est grande, car tous les gynécos préconisent ce genre de traitement. Merci pour ce livre que je vais m'empêcher d'acheter et d'offrir à mes amis, très cordialement, etc.
Il y a beaucoup de questions d'auditeurs sur des détails, donc ouais, ils trouvent toutes les réponses dans le livre.
Les réponses sont dans le livre, et puis à la conférence, je crois que...
On nous demande aussi de redire le lieu de la conférence.
Mutualité ?
C'est à la Mutualité, le mardi 16 octobre, donc dans un peu moins de 15 jours, à 20h.
Alors, on a parlé d'un site internet aussi, d'un email, d'un courriel. Est-ce que vous pouvez m'indiquer?
Email collectif ormenos@wanadoo.fr. Donc, collectif.or-men-os@wanadoo.fr.
Bien, une auditrice, que je salue d'ailleurs parce que je vois qui c'est, dit, est-ce possible, les laboratoires pharmaceutiques laisseraient-ils diffuser à des milliards d'exemplaires des produits dangereux à long terme ou pour les femmes? On ne peut le croire. Qui a dit que le cancer nourrissait plus d'individus qu'il n'en faisait mourir? Ça, c'était Lumière, c'était un des frères Lumière qui a dit le cancer nourrit plus de gens qu'il n'en tue. Et deux questions. Le professeur Joyeux a-t-il une consultation à Paris ou en Île-de-France? Non, vous nous avez dit qu'il était à Montpellier. Non,
à Montpellier, oui. Au centre Val d'Aurel. Et le site centre Val d'Aurel, Montpellier.
Voilà. Et le site, on vient de le donner. Merci François-Xavier Guibert. Merci Madame de Billy d'être venue nous présenter ce livre. Je rappelle son titre. Femmes, si vous saviez, 83 questions-réponses, hormones, ménopause, ostéoporose, comment rester jeune naturellement. Parce qu'on a parlé beaucoup de choses terribles et tristes et tout, mais il y a quand même un aspect positif et sympathique dans ce livre, c'est que si vous voulez être comme moi, jeune naturellement, vous pouvez trouver des conseils. Mais moi, j'ai pas eu ces conseils-là, j'avais pas lu le livre. C'est Collection Écologie Humaine, François-Xavier de Guibert, professeur Henri Joyeux, et c'est un livre qui vaut 160 francs, et à mon avis, c'est pas de l'argent perdu.
Alors, l'adresse de la maison ne figure plus dans l'annuaire de Paris.
Oui, oui, ben
donc c'est 3 rue Jean-François Gerbillon, dans le 16e arrondissement.
Sixième arrondissement.
Pour les moyens d'habiter le 16e.
Și pe mândruța tucată, și pe mândruța tucată. Hai, mi-a ce e joi sara, mi-a ce e joi sara, să nu mă duc la mândra, ci să viu dimineața. Când mă scol, dimineața când mă scol, prin lumica fugetor, prin lumica fugetor, e mă spăl cu apă rece, e dor, romândrinu-mi trece.
Jean-Pierre Maugendre, bonsoir.
Bonsoir Serge.
Alors vous venez selon un rituel.
Un rituel annuel maintenant, sur ce sujet.
Nous parler de la marche pour la vie.
Qui date d'avant celui d'Halloween d'ailleurs, faut dire, parce que M. Maugendre est venu depuis beaucoup plus
souvent.
Et puis il est plus beau que la sorcière verte quand même.
La comparaison n'est pas très flatteuse.
Alors, on a deux minutes pour en parler avant la pause.
Bien, donc je viens là très rapidement présenter donc notre 11e marche pour la vie, donc qui aura lieu le 20 octobre 2001, qui aura donc lieu de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur des Montmartre. Deux éléments de réflexion. Là, je crois qu'on a beaucoup parlé tous ces temps-ci de l'islamisme, des attentats. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que l'avortement en France, c'est un World Trade Center par semaine. C'est-à-dire qu'on a 5-6 000 morts multipliés par 52 semaines, ça nous ramène à 250-300 000 morts. C'est le nombre de morts qu'il y a en France dans le cadre de l'avortement. Donc je crois que ce sujet reste tout à fait d'actualité. Je crois également, deuxième élément de réflexion, ça a été abordé, la force de l'islam, c'est en grande partie sa puissance démographique, 1 milliard de musulmans, et le point de faiblesse, un des points de faiblesse majeurs de l'Occident, très clairement, c'est sa politique démographique, dont l'avortement est un élément tout à fait essentiel. Donc je crois que cette marche pour la vie, contrairement aux apparences, on est au cœur de l'actualité. Nous reprendrons la formule que nous avions adoptée l'an dernier dans le cadre de l'année jubilaire, c'est-à-dire une procession au flambeau qui nous mènera donc de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur de Montmartre. Concrètement, donc, le rendez-vous est fixé à 17h30 devant la basilique Notre-Dame des Victoires, et puis nous monterons donc en procession au flambeau jusqu'au Sacré-Cœur de Montmartre, où l'arrivée est prévue à 20h. Nous aurons cette année, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, je sais que ça avait été un motif de déception pour un certain nombre de marcheurs, nous aurons normalement la possibilité de rentrer dans le Sacré-Cœur, puisque je vous rappelle que l'an dernier, nous n'avions pas pu rentrer dans le Sacré-Cœur.
N'importe qui peut rentrer, sauf nous, c'est bon, bien.
Un certain nombre de nos amis étaient rentrés, mais à ce moment-là, on les a empêchés de sortir. Donc, encore mieux. Cette année, nous pourrons à la fois rentrer et sortir.
Jean-Pierre, la pause, et puis on y revient tout de suite.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, dirigé en cette seconde partie par Daniel Amiche, assisté de Jacqueline Lovenbruck. Document d'archives du 3 octobre 2001, rediffusé dimanche 27 mars 2011 dans la nuit de 3h à 6h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Jean-Pierre Mongendre, on vous a interrompu, vous étiez lancé dans une démonstration admirable, et puis l'horloge implacable... toute blesse, la dernière tue. C'est comme ça qu'on disait.
Oui, oui. Ah, ouais, c'est beau, ça.
Je sais plus le dire en latin. Ultima necet, je sais pas. Necat. Merci, docteur.
D'où l'expression des banlieues, necat, etc. Ouais.
En plus, si c'est toi, vous êtes bien. Alors, bah quoi, ça démarre très très fort, monsieur Amiche. Bravo. Même moi, je ne me permettrai pas ça. C'est terrible, hein. Ce garçon, moi je l'ai connu, il était très très distingué, c'est bien.
Mais ma force de te fréquenter, je pense que
c'est... Bon, c'est gentil, merci. Donc, revenons à...
Je reviens donc un
non
petit
Non pas à nos
peu,
moutons, là, mais à nos lions.
S'il permet, là, donc un petit peu avant la pause, là, j'ai évoqué un peu l'actualité de ce combat pour la vie par rapport au grand débat actuel. Je crois également qu'on peut le repositionner, là, c'est Jean-Paul II qui disait « Une nation qui tue ses propres enfants n'a pas d'avenir ». Bon, on l'a évoqué un petit peu en filigrane également dans le début de cette... c'était une remarque d'un auditeur. Je crois qu'un certain nombre de puissances sont fortes de nos faiblesses. Et je crois que cette question de l'avortement est effectivement au cœur de cette question-là. Je crois d'un point de vue historique, par exemple, le développement de l'Europe au moment de la Renaissance, la manière dont l'Europe s'est répandue, les aventures coloniales, la conversion de l'Amérique latine, eh bien, il y avait, sous-jacent à tout cela, une puissance démographique dont l'Europe aujourd'hui subit le contre-coup. Et je crois que les grandes questions, c'est Alfred Sauvy qui nous l'a dit, les grandes questions sont des questions démographiques. Et indépendamment de l'aspect purement moral lié à la question de l'avortement, je crois qu'il y a aussi une réflexion qui devrait être une réflexion politique de nos dirigeants, en disant que entre une population riche qui vieillit et une population jeune qui est pauvre, qui est de plus en plus jeune, de plus en plus pauvre, alors que les riches sont de plus en plus vieux, eh bien les dés sont joués, c'est la loi de l'histoire, et qu'il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est mal, c'est inéluctable, et l'histoire de l'humanité le montre. Donc indépendamment de l'aspect moral, je crois que ce combat pour la défense de la vie est un combat aussi également foncièrement et fondamentalement politique, au sens le plus noble du terme. Et d'ailleurs, on observe que ces questions politiques restent d'actualité. Vous l'avez vu, donc, aux États-Unis, le président Bush a supprimé il y a quelques mois les aides qui étaient accordées aux organisations qui faisaient la promotion de l'avortement au niveau mondial. Un ministre du gouvernement Berlusconi vient de faire connaître publiquement la volonté du gouvernement d'aider financièrement les femmes qui renonceraient à l'avortement. Bon, une première estimation a été faite et on estime que c'est 10 000 enfants par an qui pourraient être concernés. Donc je crois que ce sujet reste tout à fait d'actualité, que ce soit dans sa forme la plus dramatique qu'est celle de l'avortement, que ce soit également tous les débats qui ne cessent de nous agiter, qui sont un petit peu aujourd'hui mis en sommeil à cause des difficultés aux États-Unis, en Afghanistan. C'est les débats qui restent d'actualité sur l'euthanasie, sur le clonage, sur l'eugénisme, sur la stérilisation aujourd'hui promue, voulue des handicapés. Ben, tout ça, ce sont les caractéristiques de la culture de mort à laquelle, à la suite de Jean-Paul II, nous souhaitons opposer les caractéristiques de la culture de vie, que sont le respect de la vie de la conception à la mort naturelle, la protection de l'enfant et la dignité de la femme. Je crois que il faut également, dans nos discours, dans nos actions, autant que faire se peut, dire que nous ne défendons pas des schémas du passé. D'abord, nous défendons des valeurs qui sont éternelles, et ensuite mettre en avant ces valeurs positives que sont d'abord et avant tout la protection de l'enfant, la dignité de la femme et le respect de la vie. Et c'est parce que nous sommes pour ces valeurs positives que nous sommes obligés de nous opposer dans la mesure de nos moyens à tout ce qui va contre cela. Mais je crois que c'est d'abord la vie que nous défendons, c'est d'abord la vie donum vitae, don de Dieu. Ce combat est fondamentalement positif et je crois également qu'il est fondamentalement porteur d'espérance. À ceux de nos amis qui seraient tentés de se décourager en disant, bon voilà, c'est la 11e marche, alors tous les ans c'est pareil, et puis ça se rien, et puis tous les ans...
La 11e marche est presque un film d'Hitchcock.
Hein. Ouais, il en manque 28.
Quand vous revenez un an plus tard, la situation s'est encore dégradée, puis vous venez compter les points, les batailles qu'on a perdues, et puis dire, c'est pas grave, il faut quand même continuer. Je crois que c'est vrai. Et je crois que fondamentalement, ce qui doit nous animer, c'est que pour un chrétien, pour nous, ce n'est pas l'espérance de la victoire, mais c'est la nécessité du combat qui fait le combattant chrétien. C'est-à-dire que si nous attendons d'être sûrs de gagner pour combattre, eh bien la seule certitude que nous avons, parce que c'est la loi de l'histoire et c'est la loi de la vie, eh bien cette occasion ne nous sera jamais donnée. Donc nous faisons ce que nous avons à faire, à un instant donné, à la place où la Providence nous a placés, avec les grâces qui nous ont été données, et puis c'est le bon Dieu qui décide de donner la victoire. Mais si nous combattons pas, eh bien il donnera pas la victoire. Ça, c'est réglé.
C'est l'histoire de la petite souris qui tombe dans le bol de lait.
Pardon ?
Ça, la petite souris qui tombe dans le bol de crème ? Et deux petites souris tombent dans un bol de crème, il y en a une qui dit on n'arrivera jamais à remonter,
ah oui, je me rappelle.
Donc elle se laisse couler, et l'autre elle nage, elle finit par nager tellement que la crème devient du beurre et elle se sauve, voilà. Donc venez nager dans le lait, à la 11e marche, le samedi 20 octobre.
Si je peux dire ce qu'il y a des patents dans le travail que font nos amis de Renaissance catholique, c'est de rendre visible cette protestation, hein, c'est la protestation de la vie contre la mort, en fin de compte, c'est de rendre visible. Alors effectivement, dire encore une marche, encore un machin, encore un truc, mais il faut rendre les choses visibles. C'est vraiment absolument important. Et on meurt de ça, de pas vouloir rendre visible ce à quoi on croit, ce qui nous a fait, ce qui nous a façonné, tout ce dont on est les héritiers, en fin de compte, hein. Ça, c'est l'horreur. Alors regardez ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui du côté de l'islam, vous allez voir comment les gens rendent visible, hein, ça. Et nous, on rend pas visible, on rase les murs.
Je crois que c'était pas vrai. Il y a un témoignage.
On va raser les murs que les auditeurs.
Il y a un témoignage tous les ans qui nous est donné Donc bon, on est de 3000 à peu près, donc en procession au flambeau. Je crois que c'est quelque chose en plus qui a de la gueule parce que oui. C'est le samedi soir, donc
dites pas que c'est des flambeaux parce que ça va être connoté encore. Alors on va encore avoir des articles dans des journaux sur les radios hostiles. Non, c'est des cierges. Dites des cierges.
Une procession au flambeau avec des cierges.
Voilà, une procession.
Une
retraite aux bougies. Une retraite aux bougies.
Et donc l'itinéraire est choisi donc le samedi soir. On l'a un petit peu reculé par rapport à ce qu'on faisait avant. L'objectif, il est clair. On est tout à fait dans ce qu'évoquait notre ami. On passe dans le quartier des grands magasins vers 6h le soir. C'est clair, c'est voulu. On meurt aussi un petit peu de ce que trop souvent, nous avons nos convictions, mais la priorité, c'est surtout que le voisin connaisse pas nos convictions, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'il en penserait ? Là, je crois qu'il y a un témoignage public, et je crois aussi, c'est Monseigneur Frepel, je crois qu'il le disait, il y a une grâce particulière attachée à la prédication pleine et entière de la vérité. C'est ce que nous faisons. Et je crois également, il y a un autre témoignage, et puis je rends le micro à Serge, c'est donc la procession se déroule et un certain nombre de nos jeunes, etc., distribuent des tracts tout au long de tout au long du parcours. Et je crois qu'il y a des échanges là tout à fait intéressants. Alors, je dirais pas que tout le monde approuve chaleureusement, mais je crois qu'il y a là un témoignage et il y a là des échanges qui sont tout à fait
ayant tracté moi-même sur le parcours d'un de ces c'est très contrasté. Mais on s'en fiche, on porte témoignage et puis voilà. Puis après ça, vous savez, on a tellement vu de revirements dans l'histoire de gens qui étaient hostiles, qui sont devenus
Je rappelle donc 17h30 rendez-vous de la place devant la basilique Notre-Dame des Victoires. Et arriver à la basilique du Sacré-Cœur à 20h, donc au Sacré-Cœur de Montmartre, et la route prenant le chemin de l'Opéra où nous serons à 19h, de la place de Clichy à 19h30. S'il y a des gens qui souhaitent nous aider, en plus d'être présents, puisque ça me paraît vraiment le minimum minimorum, ils peuvent nous aider en se proposant pour distribuer des tracts, puisque nous avons un certain nombre de tractages qui sont prévus. On doit avoir 200 ou 300 000 tracts. Ils peuvent téléphoner donc au 01 46 62 97 04 et dire, je suis volontaire, vous m'en donnez 300, je fais le marché, le métro, la gare de l'Est, ce que vous voulez.
On dit le téléphone 01 46 62 97 04. Puis on peut aussi envoyer une petite participation symbolique. Un petit billet n'a jamais fait de mal à personne.
Voilà.
De préférence en francs. Alors, Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette.
92 130.
Ici, les Moulinoux.
Très bien, Pierre Brossolette. Je voudrais... on y sera. On ira marcher.
Moi, je pense qu'il y a deux choses.
Docteur Dor, il faut qu'on vous présente, parce que sans quoi les auditeurs vont être perdus si on ne dit pas les noms des personnes.
J'approuve complètement, bien entendu. Moi, je pense que la solution, si on peut dire, c'est la prière, premièrement. C'est ce qu'ils font. Et deuxièmement, c'est la rue. Et c'est ce qu'ils font.
Alors,
Kalachnikov, c'est bon aussi, je veux
dire. Jean-Baptiste, tu retardes, Kalachnikov, ça fait longtemps que ça n'a plus c'est plus à la mode. L'abbé Mikhailovitch téléphone en disant, pour protester contre l'intervention du professeur Joyeux, qui s'est prononcé pour la contraception, alors que monsieur Devekech, qui se dit catholique, ne doit donc pas admettre la contraception condamnée par le magistère ordinaire et universel de l'Église. Mais attendez, c'est pas parce que je donne la parole à quelqu'un que je partage tout ce qu'il dit, je l'ai déjà dit mille fois. Moi, j'ai mon opinion. En l'occurrence, le professeur Joyeux, il se place dans une perspective de santé publique. Et il dit, si on ne peut pas convertir les gens, eh bien, au moins, on peut leur éviter de mourir.
Voilà.
Donc, si vous voulez pratiquer...
Graduation dans le péché.
Si vous voulez pratiquer la contraception, on vous dit... j'en pense ce que j'en pense. Lui, il en pense ce qu'il en pense, ça n'a rien à voir. Mais il ne se prononce pas en tant que directeur de conscience ou représentant de l'évêque. Encore que s'il était représentant de l'évêque, il serait probablement pour. Donc, il se présente simplement comme un médecin qui dit, si vous voulez pratiquer la contraception, il y a d'autres moyens que la pilule qui vous tue. Ça, c'est un acte charitable. Donc, c'est un acte qui conforme au magistère ordinaire et universel de l'Église, puisque c'est un acte de charité.
Je remarque que tu te dis catholique, et que même parfois tu t'en flattes.
Il m'arrive de m'en flatter. Je me flatterais plutôt d'autres choses, parce que ça, je suis trop mauvais catholique pour m'en flatter, voilà ce que je voulais dire. Deux citations, si vous voulez, pour vous montrer que Madame Guigou ne doit pas s'ennuyer en ménage, parce que il y a deux citations de son mari. Son mari est... Je ne sais pas ce qu'il fait, cet homme-là. En tout cas, il a publié dans le...
Conseiller d'État, je crois.
C'est possible, oui. Ben, ça ne m'étonne pas. Il doit donner des conseils à l'État. Oui. Donc, un truc qui s'appelle Revue Europe Locale, la magazine de l'AFCRE. Alors, l'AFCRE, c'est l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Alors, M. Jean-Louis Guigou, il a fait deux déclarations. Si j'avais des sous, je les ferais graver sur le marbre. Et malheureusement, comme je n'ai pas de sous, je vais me contenter de le laisser sur du papier machine. Écoutez bien, parce que ça vaut le voyage quand même. Je ne sais pas combien c'est payé un conseiller d'État. Vous savez ça, monsieur?
Trop. Je ne sais pas, mais ça.
Probablement trop. En tout cas, je voudrais bien assister aux conversations entre madame et lui le soir. Ça doit être intéressant, parce que lui, il dit « Tous les travaux d'évaluation montrent qu'une politique, qu'un programme qui ne sont pas partagés par les acteurs concernés ne réussissent pas. »
Hein? Il en faut des études.
J'avais un prof de physique qui disait, j'avais un professeur de physique qui nous disait, plus tu pédales moins fort, moins tu roules plus vite. C'est un peu ça. Et alors, la deuxième citation, c'est, je partage l'idée de la commission qu'il convient de parler d'abord du fond, du contenu, des objectifs, avant de parler des financements. Faute de quoi le vrai débat sur la cohésion sera occulté. On va d'abord construire un très 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 beau truc, vous voyez. Bon, et puis on va vous dire, ah, non, on paye, on peut pas payer.
Ah, bon, bah, alors on le fait beau, pas. C'était voilà. Beau.
Donc on occulte la cohésion. Et puis, avant de partir, je voudrais encore laisser la place à Daniel Amiche.
Ah, non, ouais, mais tu peux rester, il y a pas de problème. Ouais, hein. Attends,
j'ai
un dîner ce soir.
Vous,
ah oui, mais attends, il y a un téléphone qui t'attend aussi.
Ah oui, c'est vrai. Alors attendez. Alors avant de donner la parole au professeur, enfin au docteur Villette. Et après, on donne... Qu'est-ce qu'on a comme docteur, c'est ça?
Ah oui, du docteur.
Je voudrais vous inviter, si vous avez du temps à perdre, allez donc à l'église Saint-Sulpice. Depuis le 21 septembre, et ce jusqu'au 18 octobre, vous pourrez voir, ça va vous plaire à tous, je crois, écoutez bien. Vous pourrez voir une machine laïque à baptiser. Alors, il s'agit de transformer le baptistère de l'église Saint-Sulpice en salle de machine, où est échafaudée toute une machinerie ludique et alchimistique, qui, le temps de l'installation, délivre des certificats de baptême. L'installation comporte un réservoir suspendu 7 mètres au-dessus du sol, d'où colle périodiquement de la résine blanchâtre, le vino vinyle, ce qui, dans l'imaginaire de l'artiste, ne peut qu'évoquer la semence du créateur. La flaque opalescente qui se forme dans le réceptacle s'éclaire petit à petit et laisse transparaître la reproduction agrandie et altérée d'un vrai certificat de baptême. Pendant la durée de l'installation, 10 certificats de tableau sont ainsi produits. Qu'est-ce qu'un baptême ? Car Faust Cardinali. Alors, le type qui a fait ça s'appelle Faust Cardinali. Ça s'invente pas, quand même. Faust Cardinali. Car Faust Cardinali intervient à l'endroit même où il fut lui-même baptisé. Sans doute la résine liquide irrésistiblement spermatique qui constitue le matériau de prédilection de Cardinali depuis des années se relie-t-elle symboliquement à l'eau dont enfant il fut aspergé sur le site de l'installation. Mais les multiples couches de sens que comporte cette œuvre, j'ai une œuvre qui comporte des couches de sens, dont une est tenue sérieusement par l'auteur d'ailleurs, qui en tient une sacrée couche aussi. Mais les multiples couches de sens que comporte cette œuvre suggèrent que son intérêt se situe ailleurs, je ne vous dirai pas où, bien entendu. En effet, ne pose-t-elle pas la question de savoir ce qu'est un baptême aujourd'hui ? Hein, bonne question, je vous remercie de m'avoir posée. En fin de compte, c'est une machine laïque à baptiser son propre travail que Faust Cardinali érige à Saint-Sulpice. Mais peut-on baptiser une œuvre, la nommer une fois pour toutes par un acte performatif ? Je vous pose la question, performatif. Les œuvres de Cardinali, en tout cas, semblent se situer à jamais en deçà du baptême, destinées à demeurer dans l'imparfait, l'inachevé, l'attente perpétuelle d'une couche supplémentaire de récolte. S'il en tenait pas assez, une de plus de résine, elle demeure comme au limbe. Dans cet état indéterminé où l'on accueille ceux qui meurent avant d'avoir été baptisés, dont les 250 000 petits bébés avortés tous les ans. Au seuil de la liquidité et de la solidité, au seuil de la liquidité et de la solidité. Après, je vous donnerai le nom du gars.
Au confin.
Là, il est dit au seuil. On peut exprimer l'impératif plastique de l'œuvre de Cardinali en ces termes. Ne pas être fini, mais être là.
Très là. Non.
Mais attendez, on croit rêver. Malheureusement, je ne sais pas dans quoi c'est paru, mais je vais
vous donner... C'est dommage, mais c'est vrai, hein.
Bah, oui,
mais
il ne
faut pas regretter de faire de la radio, quand même.
L'auteur s'appelle monsieur Stephen Wright. W-R-I-G-H-T. Voilà. Alors, monsieur Faust Cardinali. Donc, si vous voulez aller voir la machine laïque à Mathieu, puis si vous voulez éventuellement botter le cul du curé qui a permis cette opération, il faut surtout pas vous gêner, quand même.
Surtout parce que le code de droit canonique n'excommunipus aujourd'hui ceux qui
votent. Voilà, vous pouvez botter le cul du curé parce que vous ne risquez pas d'être excommunié. Ce que je voudrais dire, quand même, c'est que dans cette église, si vous venez et que vous dites « je voudrais célébrer selon l'ordo traditionnel », on vous dit « pas de salisette, va dans… » »«
Pas de saleté ici !»«
Pas de saleté ici !» Mais si vous lui dites « moi je voudrais présenter en matière spermatique une machine laïque à baptiser », on dit « entrez donc, jeune homme !» Non, il a marre, vraiment, hein. Lustiger, tu bouges un peu, qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Voilà, Voltaire a écrit « toute œuvre qui demande des explications ne la mérite pas ». Ça, c'est un auditeur qui nous dit.
Bravo.
Ça. Et un autre auditeur nous dit « Monsieur Guigou est président de la DATAR ». DATAR. Il est plus DATAR que tu ne penses.
Et un autre auditeur demande « Monsieur Maugendre nous a dit le trajet, mais n'a pas dit la date de la marche. »
Oh, mais si, il l'a dit.
20 octobre.
Le samedi 20 octobre.
Voilà.
Il faut dire 20 octobre.
2001. 20 octobre 2001.
20 octobre.
Je vous signale que j'ai
20 octobre.
C'est reparti.
Non. J'ai le dessin sous les yeux de la machine à baptiser, c'est pas mal non plus. Docteur Villette, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Mais
pardon
je...
de vous avoir fait attendre si longtemps, mais je crois que...
Mais j'en ai profité parce que je me suis tellement amusé à écouter cette histoire de machine à baptiser laïque.
C'est joli, hein.
Que je crois que bon... Non, mais il faut que je reprenne mes esprits.
On croit rêver.
On croit rêver. Alors, je vous remercie de m'accueillir, et très brièvement, en 3 minutes, je voudrais essayer de susciter...
Ou déboter, ce qui est la moindre des choses pour un cavalier.
Voilà. Susciter l'enthousiasme, l'espérance, et puis la participation de tous vos auditeurs à travers la France pour ce que j'appelle les journées d'octobre. Et mais d'abord l'enthousiasme. Très brièvement, vous savez que depuis 1973... la Providence nous a permis de construire avec des tout petits moyens financiers une église qui est devenue le sanctuaire Saint-Joseph du Saint-Sauveur dans la Drôme, à côté de Châteauneuf-de-Galaure, de Marthe-Robin, où c'est un centre de pèlerinage pour le respect de la vie. On va à l'étranger, on y vient en pèlerinage, et il y a des magnifiques vitraux. On va essayer de faire baptiser les 3 prochaines cloches pour le 28 décembre, pour la fête des...
J'ai des prénoms, hein, si vous voulez.
Comment?
J'ai des prénoms pour les 3 cloches.
Voilà, mais ça, on les dira au dernier moment, c'est une surprise. Toujours est-il que cette église est construite, on a construit 3 mémoriaux aux milliards d'enfants avortés d'après les chiffres de l'ONU jusqu'en 97. Alors un mémorial en France à côté du fameux sanctuaire de Saint-Joseph, un mémorial en Pologne avec l'appui de la hiérarchie polonaise, mais oui. Et puis nous en construisons un actuellement au sommet d'un immeuble de 8 étages qui sera l'orphelinat des Saints Innocents, devinez où, au Caire. Au Caire, chez les chiffonniers du Caire, là où était sœur Emmanuelle.
Ah oui,
et au sommet de ces 8 étages, éclairé la nuit, on verra une croix de plus de 7 mètres entourée des fameuses 100 petites qui chacune représente 10 millions d'enfants avortés. Alors 100 croix, 10 millions, ça fait 1 milliard. En terre d'islam, c'est beau aujourd'hui, je crois qu'il faut le souligner, et ça aura lieu également le 28 décembre, en la fête des Saints Innocents. Donc on aura 2 fêtes le 28 décembre, une au Caire et une à Chantemerle-les-Blés, pour ceux qui ne peuvent pas aller au Caire avec la situation mondiale. Toujours est-il que on a également pu construire un chemin de croix réparateur des crimes contre l'humanité depuis la conception. Vous en parliez tout à l'heure avec la contraception, mais la conception commence aussi à ne pas refuser la vie, à ne pas se tripoter comme ça. Bon, toujours est-il que ce chemin de croix est illustré par des bas-reliefs de 400 kilos en granit breton du maître sculpteur Joannic, André Joannic, qui est à côté de Sainte-Anne-d'Auray. Et pour l'instant, on a construit 2 bas-reliefs sur les 14, mais c'est déjà pas mal, celui d'Auschwitz. N'oubliez pas que certaines personnes ne veulent pas qu'on pose des croix en Pologne, mais la hiérarchie polonaise aime bien que nous amenions nos croix, et notamment en partant depuis la cellule du père Kolb à Auschwitz. Et ça se termine à Częstochowa, qui est le grand sanctuaire marial polonais. Alors les deux extrêmes du chemin de croix sont faits, Auschwitz, Częstochowa. C'est plein d'espérance parce que c'est avec des tout petits moyens qu'on a pu faire ces constructions, ce que j'appelle les chantiers pour le respect de la vie. Mais alors, cette espérance, cet enthousiasme que j'essaye de faire passer brièvement, c'est pour amener aux journées d'octobre. Alors, je commence par la fin. J'espère l'occasion de revenir sur Radio Courtoisie pour en reparler dans les journées du 25-26, parce que c'est le 27 octobre, un très grand rassemblement à Notre-Dame de Paris. Et nous appelons tous les amis, surtout de l'Île-de-France, bien sûr, à venir à Notre-Dame de Paris le 27 octobre, c'est un samedi, à 17h. Une semaine plus tôt, c'est la marche pour la vie. Vous en avez parlé également,
oui,
avec
Jean-Pierre Mongeant nous en a parlé. Oui.
Voilà, et je demande à tous mes amis des groupes de Rosaire pour la vie d'Île-de-France et d'ailleurs de venir à Paris. Il faut faire masse, il n'y a pas de problème. Le 13, ce sera Lyon. Et puis, il se trouve que les Rosaires pour la vie, qui maintenant, ça aussi c'est une source d'espérance et d'enthousiasme, ont réussi à faire leur trou, comme on dit. depuis 10 ans, depuis 1991, où a été créé ce fameux chemin de croix en Pologne, le premier fruit, ça a été les rosaires pour la vie, et ça a commencé à Clermont-Ferrand, en octobre 91. Alors, maintenant, depuis 10 ans, pas mal de difficultés avec le clergé se sont estompées. Ils avaient peur parce que c'était des laïcs qui organisaient ça et pas des curés. Finapio, c'était contre l'avortement, et puis c'était le chapelet à la main, il y en avait que ça gênait, d'autres que ça gênait pas, au contraire. Mais ceux que ça gênait pas et qui étaient contents, ils étaient gênés de ceux qui étaient pas d'accord. On a fait notre trou, et finalement, on réconforte tous ceux qui ont nos idées, qui n'osaient pas le dire, parmi ce clergé, et notamment parmi les évêques. Et nous avons par exemple l'évêque d'Autun qui va venir assister au rosaire pour la ville, nous l'a écrit, ce samedi 6 octobre, après-demain. Il faut le faire savoir. Et il faut faire savoir que...
Évêque qui assiste à un rosaire, ça mérite effectivement d'être signalé. Quoi.
Mais oui, mais il y en a d'autres. Il y a Monseigneur Lagrange à Gap. Donc non, il n'y en a pas qu'un quand même. Mais disons que il faut encourager justement cette institutionnalisation des rosaires pour la vie dans toutes nos cathédrales. Parce que, espérance et enthousiasme, qu'est-ce qui va se passer le jour où on arrivera à remplir d'une façon significative toutes les cathédrales de France, tous les mois, le premier samedi à 17h? Eh bien, tous nos curés et tous nos évêques n'auront plus qu'une chose à faire, c'est dire bravo et venir présider, et puis faire ce que font les évêques américains, c'est-à-dire sortir des cathédrales, une fois qu'ils ont rassemblé leurs fidèles, pour aller faire ce que fait le docteur Dor, c'est-à-dire aller devant les avortoirs. Aux États-Unis, ils font ça. Monseigneur Reilly est venu l'année dernière à Paris, précisément, nous expliquer ce qu'il fallait faire. On lui a dit, vous savez, nos évêques, c'est pas mûr, mais on essaye de préparer le terrain avec, justement, ces fameux rosaires pour la vie. Ce qu'il faut, c'est que les évêques, avec leurs fidèles, aillent avec le docteur Dor et SOS tout petit, devant les avortoirs.
En vertu du vieux principe, il faut bien que je les suive, puisque je suis leur chef.
Oui, mais d'ailleurs un évêque m'a dit, comment voulez-vous qu'on fasse ce que font les évêques américains? Nous n'avons pas de troupes. Alors je réponds, donnons-leur des troupes. C'est l'œuvre de Christophe Colomb, vous me direz. Bon, alors on essaye de faire ça, et ça marche tellement bien, c'est que pour le 10e anniversaire des rosaires pour la vie, je demande à tous ceux qui sont dans le centre de la France de me rejoindre au rosaire de Clermont-Ferrand, puisque c'était le premier rosaire pour la vie il y a 10 ans. Donc le 6 octobre, dans toutes les cathédrales de France, il faut jouer le jeu à 17h, mais tout particulièrement à Clermont-Ferrand pour ceux qui sont au centre. Et avec quelque chose de merveilleux, c'est que l'abbaye de Randol va nous donner une messe anniversaire du 10e anniversaire, le dimanche 7, le lendemain. Donc, ceux qui peuvent me rejoindre à l'abbaye de Randol le 7 à la messe de 10h, et bien après on ira manger dans la campagne. S'ils sont là dès le samedi soir, on ira faire une petite fête dans un restaurant sympathique de Clermont-Ferrand. On restera ensemble, mais ça c'est pour ceux qui peuvent être à Clermont le 6 et 7. Mais sinon, la consigne générale, c'est dans toutes les cathédrales le 6 et
le
7.
Le 6 et le 7. Et puis, les journées d'octobre, le 20, enfin, ah ben, à Notre-Dame... C'est tout
ce que j'ai dit à la reculade, depuis le 27, avec voilà. L'essence catholique, le 13 à Lyon, à la cathédrale de Lyon. Parce qu'à Lyon, il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que les rosaires pour la vie avaient lieu à la à Fourvière, à la basilique. Parce que les Lyonnais disaient, il faut pas aller à la cathédrale tout de suite. Il y avait des tas de choses qui faisaient, ça allait pas. Bon. Mais, à Fourvière, la chapelle de la Vierge Noire était pleine. Parce qu'à Fourvière, à Lyon, il y a plusieurs prêtres qui, dans leurs sermons, disaient, il faut y aller, il faut y aller. Bon, ça, quand un prêtre dans les sermons dit, il faut y aller, c'est fantastique. Alors donc, Fourvière, c'était plein, la chapelle de la Vierge Noire. Ce qui fait que le clergé et l'épiscopat lyonnais est venu trouver la responsable et a dit, mais, il y a tellement de monde, on va vous donner la cathédrale.
Ah ben voilà.
Alors maintenant,
donc
nous sommes
c'est une belle victoire.
Et nous sommes à la primatiale de façon officielle. La primatiale des Gaules.
Alors ça, c'est le 13, vous nous avez dit.
Et pour le 13 à 17h.
Et pour les Parisiens, le 27 à 17h. Je suis obligé de vous interrompre, docteur, parce que on a beaucoup d'invités ce soir.
Je voudrais dire juste une chose, deux choses.
Très vite, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, on est...
La première, c'est que j'ai signalé qu'il y avait, je sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort au Trocadéro, du 5 au 9. Mmh. Il se trouve que tous les braves gens qui vont là-bas, c'est des gens qui, en général, sont pour l'avortement ou la contraception. Alors, il serait bon que toutes les associations du respect de la vie, leurs militants, d'une façon indifférenciée, aillent du 5 au 9 au Trocadéro pour témoigner qu'il ne faut peut-être pas tuer non plus les bébés. Eux, ils sont innocents.
C'est une très bonne idée, effectivement.
Voilà. Et alors, on y va chacun pour soi. Par contre, le docteur Dor, je sais pas si vous l'avez annoncé.
Il est là. Il va nous annoncer ça tout de suite.
Bon, alors voilà. Il va pouvoir prendre la suite parce que voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le rejoindre le lundi 8 au Trocadéro. Je n'en dis pas plus, sauf mon adresse. Si on veut plus de renseignements, m'écrire au sanctuaire Saint-Joseph du Saint-Sauveur, 26 600 Chantemerle-les-Blés. et j'enverrai toute la documentation sur ce qu'on essaye de faire, les chantiers pour la vie, etc. Sanctuaire Saint-Joseph du Saint-Sauveur, 26 600 Chantemerle-les-Blés.
Merci docteur Villette.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, donc on dit les annonces et les messages, et puis après
Monsieur,
je me sens.
Des messages, enfin, des questions pour vous. Pouvez-vous nous redire les références du journal suisse de Lausanne qui avait traité de l'affaire de Toulouse?
Le Matin de Lausanne, ça doit être le journal qui est sorti le lendemain ou le surlendemain de l'explosion de Toulouse. Alors l'explosion de Toulouse, je ne sais plus quel jour
c'est. C'est le vendredi.
Alors, ça doit être celui du lundi ou quelque chose comme ça.
Du samedi.
Non, je ne crois pas du samedi, je crois que c'est plutôt le lundi. Oui.
Pouvez-vous, un nouvel auditeur, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire la périodicité de votre journal?
C'est un décadent.
Et en quoi il consiste?
Il faut s'abonner. Voilà. Demander un spécimen. Demander un spécimen. Voilà.
C'est un décadent, donc qui paraît tous les 10 jours. C'est curieux, mais c'est comme ça. Un décadent qui paraît tous les 10 jours. Et qui fait 24 pages de, et c'est un journal qui se veut un journal de résistance catholique et de résistance, national et de tradition catholique. Voilà, c'est ça. C'est difficile. Et de tradition catholique. Voilà.
Et voulez-vous rappeler que ce libre journal de la France courtoise se trouve sur Internet?
Ah oui.
Dites
oui.
Donc le...
libre-journal.fr.fm, comme franc-maçon, pas comme Front National. Mais je peux pas, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui donne les adresses, c'est comme ça.
Alors là, voilà une question insidieuse. Peut-on payer le livre journal en plusieurs fois et aura-t-on malgré tout le livre sur la Vendée?
Ça, il faudra voir avec madame la directrice. Alors là, écrivez à ma femme qui fera peut-être un jet, je ne sais pas. Écoutez. Non, ça devrait pouvoir se faire.
Ça, c'est trop particulier comme question. Nous ne sommes pas une radio forensique, quand même. Nous avons des centaines de milliers d'auditeurs. Cet auditeur, quand même, exagère.
C'est quand même un futur abonné, je te prierai de le traiter.
Oui. Voilà, demandez un spécimen. Voilà. Les références de la musique traditionnelle. Attention, vous allez avoir un festival. La musique traditionnelle roumaine qui vient de passer. Ça s'appelle. Tenez-vous bien. Musique de mariage et de fête roumaine des pays d'Oas et des Maramures.
Les Maramures, elle ne connaît pas les Maramures.
L'ensemble Tara Wassului et les frères Pitigoy.
Bon, ça Pitigoy, c'est pas Grand Goy, c'est Pitigoy.
Jamais regardé les Ramamures.
Et la référence de ce disque, c'est Arion, 64 416. Vous c'est savez bien. Tout. Un auditeur aurait voulu savoir l'adresse exacte où a eu lieu l'explosion du boulevard Lefebvre.
Bon, écoute,
Nos auditeurs qui savent tout peuvent-ils le dire à Monsieur Amiche qui sera ravi. Merci.
Boulevard Monseigneur Lefebvre, je sais pas.
Alors, maintenant, il y a le professeur Joyeux. J'avoue que je suis un petit peu perdue.
Le professeur Joyeux donne deux conférences.
Deux conférences. Voilà. La première, le vendredi 12 octobre à 14h au congrès du GNOMA, GNOMA, dans le 12e, et une autre le 16 à la mutualité sur cancer du sein et traitement hormonal, ménopause, hormones et contraception. Je ne me suis pas trompée.
Bravo.
Oh, c'est génial, comme on disait dans le loft. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse à Montpellier? Je ne sais pas l'adresse de quoi, mais ça ne fait rien.
Ah non, l'adresse du site. Ça doit être... Ah mais non, je ne l'ai pas. Alors, je suis désolé.
Je ne peux pas les prendre. Il me faut 3 heures. Et puis, redonner l'adresse des éditions François-Xavier de Guibert. C'est 3 rue Jean-François Gerbillon, dans le 6e arrondissement. Et le téléphone 01 45 48 97 77.
Et votre adresse, vous ne voulez pas la donner pendant que vous êtes?
Ah ben non, écoutez. Alors, l'email, ça y est. Monsieur Amiche, un conseil. Enregistrez donc votre rire sur cassette. Les auditeurs pourront l'écouter lorsqu'ils auront le cafard. C'est très gentil.
Bah, ça, c'est pas méchant.
Il attend toujours qu'on lui dise des méchancetés.
Non, mais des fois, je me méfie parce qu'on a quand même des auditeurs extrêmement facétieux, faut dire.
Mais non.
Une fois que quelqu'un veut t'écouter.
Alors, le cercle Sol Invictus vous invite le vendredi 5 octobre à 20h. Sur le thème « Pour en finir avec Halloween à la lumière du christianisme » par Arnaud Guyot-Janin et Christophe Levallois. Prix d'entrée 40 francs, adhérent 25 francs, adresse SEIN, salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e.
Alors il y a des jeunes, en petite parenthèse, il y a des jeunes qui sortent un canard, là j'ai vu ça sur l'internet, j'ai reçu un message, ils sortent un petit journal de 4 pages en couleur tiré à, je ne sais pas, 100 000, 200 000 exemplaires contre Halloween. Puis des gens très bien pêchus.
Ça serait pas le
dimanche 7 octobre, au Palais de la Mutualité, Paris 5e, Grand rassemblement associatif sur le thème Restaurer le Christ dans la cité. À 10h, ouverture des stands. Vaste à 10h30, grande messe pontificale en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. À 15h, conférence de Monseigneur Bernard Fellet, supérieur général de la fraternité.
Et donc, j'y serai, je le dis, on aura un stand de Libre Journal. Si vous voulez vous abonner, c'est le moment où j'arrive.
Ah bah voilà.
Si et puis il n'y aura pas Amish.
Non.
Donc là, vous pouvez être tranquille.
Moi, je chanterai Citrouille, retournez au tombeau.
Ça n'a rien à voir, celle-là. C'est contre Halloween. Ça, c'est pas une manifestation contre Halloween, c'est une manifestation.
Il mélange tout. Alors, François-Marie Algou signera son livre France, notre seule patrie, à la fête organisée par la Fraternité Saint-Denis.
Ah, voilà, c'est ce dont vous avez causé.
Le dimanche 7 octobre, etc., etc.
Que vous avez causé de...
Les organisations nationales serbes vous invitent à la commémoration du roi Pierre Ier de Serbie et de son fils, le roi chevalier martyr Alexandre, le dimanche 7 octobre à 12h50 à la Porte de la Muette, Paris 16e. Et enfin, journée de la souveraineté nationale, organisée par le collectif Vive le Franc, sur la défense du franc, sous la présidence de Pierre-Marie Allois, le samedi 13 octobre de 9h à 17h30 au gymnase 30 boulevard de la Liberté au Lila. Voilà.
Merci.
Eh ben c'est pas trop tôt.
Merci chers auditeurs de nous avoir supportés jusqu'à présent. Maintenant vous n'avez plus qu'à Mich à supporter, c'est quand même moindre mal.
Faut dire que le plus dur est fait. Eh bien, bonsoir aux auditeurs pour cette deuxième courte partie, seconde d'ailleurs on peut dire, puisqu'il n'y en aura pas une troisième, donc seconde partie du Libre Journal de Serge Beckett de ce jour, qui est le 3 octobre, et puis je salue par avance les auditeurs qui nous écouteront demain matin en rediffusion. Salut les auditeurs, évidemment, j'embrasse aussi les auditrices. Bonsoir ma petite Jacqueline.
Bonsoir Daniel.
Vous allez bien?
Oui.
Bon, vous avez deux, trois messages, cette fois-ci, faut me pincer pour les dire.
Oui, hein. Oui, oui.
Mais alors moi, j'ai un message urgent à donner quand même. Enfin, urgent non, parce qu'on a encore un petit peu de temps, mais vaut mieux prévoir, gouverner, c'est prévoir. Je rappelle quand même que le 5e prix d'Audet, qui va récompenser donc un auteur, un journaliste, un animateur de radio ou de télévision, plus rare, bon, qui aura bien servi la langue française au cours des trois dernières années. Donc ce prix d'Audet, le 5e, hein, ça fait 5 ans qu'on fait ça, sera remis le 7 novembre 2001, qui est le jour anniversaire de la fondation de Radio Courtoisie. Alors comment participer? Alors c'est très facile parce qu'il y a un premier tour, on va pas parler du deuxième tour ce soir, on va parler du premier tour. C'est-à-dire que tous les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent envoyer une enveloppe timbrée et libellée. Libellé, ça veut dire libellé à son adresse. C'est pas la peine de dire libellé à son adresse, c'est un pléonasme, quoi. Enfin, une coccygrue, enfin, je sais plus. Enfin, bon, alors, une enveloppe libellée. Ils envoient Radio Courtoisie, secrétariat du prix d'Audet, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ils recevront un formulaire, imprimé par nos soins, qu'ils pourront remplir. Ils le retournent, et tout à la, ils retournent à la radio, évidemment. À l'huissier, ah oui, ben voilà, il y a marqué, c'est vrai, il y a l'adresse de l'huissier. Oui, il y a un huissier, celui-là je l'aime bien parce qu'il vient pas me voir, donc c'est très bien. Alors on renverra tout ça, puis alors c'est huissier qui va tout ouvrir et qui va commencer à faire la première liste des concourables,
oui.
Ou des prisables. Comme je pense, on dit ceux qui sont susceptibles d'avoir un prix, on appelle ça des... méprisable.
C'est pas vous qui l'aurez.
Monsieur,
c'est pas vous qui l'aurez visiblement, puisque ce sont les défenseurs de la langue française qui sont privés.
Absolument pas. Étant quand même le plus âgé dans le grade le plus élevé, Monsieur Adeline, je pense que je l'aurais avant vous. Voilà. Alors c'était Monsieur Adeline qui vient faire ses facéties hebdomadaires. Alors je le salue beaucoup. Donc voilà, c'est Franck, j'ai bien fait ce qu'il fallait faire. C'est très bien. Donc alors, il y aura un Bobino. Ah ben on va écouter Bobino alors. Très bien, Bobino.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie a voulu l'honorer en créant le prix d'Audet. Le prix d'Audet sera décerné le 7 novembre prochain, lors de la fête de la langue française, 14e dîner anniversaire de Radio Courtoisie. Le jury du prix d'Audet est constitué par l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes membre du jury. Votez pour la personnalité française ou francophone qui, selon vous, a le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Vous pouvez choisir parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou les producteurs de télévision. Demandez un bulletin de vote en nous envoyant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Après avoir indiqué le nom de votre choix, il vous suffira de faire parvenir anonymement le bulletin à l'huissier mentionné. Cet huissier effectuera le dépouillement. La liste des 10 noms arrivant en tête sera publiée et le 7 novembre, les adhérents participant au dîner éliront par vote à bulletin secret celui des 10 noms qui sera proclamé prix d'Audet 2001. Vive la langue française.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Et voilà, c'est une très belle musique. Alors c'est vrai que quand Anne Colin dit le thème du concours, c'est quand même plus compréhensible que quand moi j'essaie d'expliquer. C'est vrai, hein, Anne Colin a une jolie voix et tout, et puis alors elle explique bien les choses. Enfin, c'est très très bon. Oui. Merci mon cher Franck pour ce joli Bobino. Alors je voulais aussi à la fois remercier et excuser. Remercier de la part d'une personne et excuser cette personne. Parce qu'on l'a reçu donc il y a le 19 septembre, Claire Gros, qui est la présidente de l'association Lire Jeunesse. Qui fait un site internet en quelque sorte, hein, pour conseiller des ouvrages pour les enfants ou parents. Donc c'est extrêmement pratique. Et alors, non, il y a eu, mais c'était terrible, m'a dit, c'était effrayant. Alors, comme on s'est rencontrés dans la même mosquée dimanche, que nous on va à la mosquée le dimanche, hein, pas confondre avec les islamistes, elle m'a pris d'abord de remercier tous les auditeurs qui s'étaient manifestés, et surtout de transmettre ses excuses auprès de tous ceux auxquels elle n'a pas pu répondre. Alors je redonne quand même donc le courriel de Lire Jeunesse. Donc c'est Lire Jeunesse en un seul mot, lirejeunesse@lirejeunesse.com, lirejeunesse@lirejeunesse.com. C'est joli, comme l'antique. Hein. Voilà. Voilà petite Jacqueline. Donc non, ça sera un tout petit peu plus tard. Enfin vous me passerez pour dire les messages, parce que là on a quand même dit un peu beaucoup. Là les gens, les crayons, ils ont plus le temps de tailler leurs crayons. Là c'est fini. Alors donc présent dans le studio. Allant de gauche à droite, tiens, ça va vous changer un peu, Yves-Marie Adeline. Voilà, donc Yves-Marie Adeline, auteur célèbre, directeur de la rédaction de Fidélis, éditorialiste ou légitimiste, président de l'Alliance Royale, c'est fou ce que vous faites, hein, vous faites beaucoup, hein. À part des facéties, vous faites travailler un peu. Et alors, j'ai le plaisir aussi de recevoir notre bon camarade Benjamin Guillemin.
Bonsoir.
Qui a décidé de truster le studio, parce que alors on l'a entendu hier au soir en direct, ce matin en diffusion, ce soir on l'entend en direct demain en diffusion, et journal des scouts dimanche.
Donc non,
on
y... c'est pas dimanche.
Ah non, c'est pas dimanche. Dans 3 semaines, parce que là aussi il y a une rediffusion, alors faut quand même pas exagérer. Donc vous venez nous voir, il y a deux bonnes raisons. D'abord parce que vous avez fait vous-même un papier pour le dernier numéro de Fidélis d'Adeline, qui s'appelle La Refondation Sociale, et dont on dira quelques mots, et puis également parce que vous préparez donc un colloque, le 17 novembre prochain.
Exactement.
Sur quelle structure fédérale pour la France. Alors, je vous ai entendu en parler, en reparler ce matin en rediffusion avec vos invités de ce magnifique libre journal des artisans. Moi, je trouve ça épatant. Je vous le dis sincèrement, c'est pas parce que vous êtes là, hein, même quand vous êtes pas là, je le dis. Je trouve que c'est épatant parce que ça donne, voilà, Radio Courtoisie, c'est ça qui est merveilleux, ça donne la parole aux gens qui n'ont jamais la parole. Voyez-vous. comme le Saint-Père et donne la parole à tous ces enfants qui sont assassinés, qui n'ont pas le droit de parler, qui parleront jamais. Il faut que quelqu'un parle au nom de ceux qui peuvent pas parler. Et Radio Courtoisie, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu cette image, c'est-à-dire qu'elle donne la parole à des gens qu'on n'entend jamais, nulle part ailleurs. Comme on dit sur une chaîne de télévision. Voilà. Et puis alors, au milieu, entre Benjamin Guillemin et Yves-Marie Adeline, eh ben, le docteur Xavier Dore, hein, qui nous fait l'amitié de venir ce soir. Vous êtes en terrain de connaissance, là, il n'y a pas de... Hein, vous avez l'habitude.
J'abuse.
Non. Bah, écoutez, on va commencer par vous. Comme ça, vous allez abuser tout de suite. Alors, venez, donnez-nous un petit peu... Tout à l'heure, le docteur Villette a engagé à venir dans une de vos... Enfin, manifestations, c'est même pas des manifestations au sens trivial, on l'entend, quoi. C'est des espèces de témoignages de...
Je remercie beaucoup le docteur Villette d'avoir... c'est lui d'ailleurs qui m'a mis la puce à l'oreille. Et je ne savais pas qu'il y avait le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Et celle-ci donc va être fêtée du vendredi 5 octobre au mardi 9 octobre, place du Trocadéro, enfin place du... Pardon. En place des droits de l'homme.
Oui, enfin, en place des Trocadéro. Hein.
Voilà, c'est ça. Et alors... Quand quelqu'un pense à l'abolition de la peine de mort...
Parce que le Trocadéro est une victoire française, les droits de l'homme, je sais pas.
Les droits de l'homme, non, c'est plutôt une horreur, enfin bon. Mais, car, étrange droit de l'homme qui permet justement de gracier les coupables, pas le gracier, mais de pas faire mourir les coupables, mais par contre de faire mourir les innocents. Alors là, ce sont des droits de l'homme à l'envers, droits de l'homme sans Dieu. Enfin, je n'arrive pas à comprendre, nous en parlions avant d'entrer dans le studio, comment se fait-il que on puisse sérieusement, ne pas donner la mort aux coupables et donc réserver cette mort aux innocents. Alors je ne sais pas comment on peut raisonner, où est la logique. Alors je sais bien que c'est au nom de la liberté. Et c'est d'ailleurs assez curieux parce que Badinter, ma femme m'a lu quelques extraits, elle lit beaucoup, et m'a lu son livre « L'abolition ». Et j'avoue que dans le livre, je cherchais le passage ayant trait à l'avortement, parce que c'est difficile quand même de parler de la peine de mort sans parler au moins un instant. Eh bien, le passage est extrêmement court, quelques lignes, et là, c'est le mot liberté. C'est-à-dire qu'il enterre des millions et des millions d'enfants, des millions d'innocents, sous le terme de liberté. Et il se trompe, comme tous les libéraux, finalement, comme tous les révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il met la liberté avant la vérité. Notre Seigneur avait dit, la vérité vous rendra libre. Mais mettre la liberté avant la vérité, c'est le péché originel. C'est-à-dire, c'est moi qui décide de la vérité. Et c'est exactement ce qui s'est passé au paradis terrestre. C'est-à-dire que c'est l'homme, finalement, qui décide. C'est lui qui a la vérité. Il prend la place de Dieu.
Ça vous inspire, Yves-Marie Adeline, les réflexions du docteur Dore, là?
Oui. C'est-à-dire, je suis partagé entre deux choses. D'abord, l'affection et l'admiration que j'ai pour Xavier Dore, vous savez que je l'ai un peu suivi à une certaine époque, et donc j'ai partagé un peu quelques-unes de ses misères, puisqu'on a été condamnés ensemble à Caen. Oui. Bon, en même temps, on peut pas parler de la peine de mort et de l'avortement comme d'une seule et même chose, parce que, alors, parlons de la peine de mort. Il y a un principe général qui est que la vie est un don de Dieu et donc c'est quelque chose de sacré. Et puis quand on descend dans le particulier, au niveau d'une cité, celui qui gouverne, il a des responsabilités. Et à ce moment-là, il lui appartient à lui de protéger ses compatriotes et éventuellement par des moyens qu'il juge les plus appropriés. S'agissant de l'avortement, c'est autre chose. Alors, c'est là où, lorsque Xavier Dore dit « je comprends pas », si, c'est très facile à comprendre, c'est tout simplement la subversion qui fait
ça. Ah oui, ça, j'avais compris ça.
Et donc, lorsqu'il y a, à propos de l'avortement, parce que quelquefois on nous dit, mais Xavier Dore se l'est entendu dire bien plus qu'à moi, hein, vous comprenez, lorsque une femme qui a été, enfin une jeune fille qui a été violée par son père, etc. Bon. Oui, alors, et si elle tue son père, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a la vie qui est sacrée, etc. Mais il appartient au juge, certainement pas au législateur, de décider de ce qu'il faut faire. Le législateur, lui, il dit le parricide, c'est interdit. Le juge, il peut rendre des jugements en équité. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les niveaux sont pas les mêmes. Donc on peut pas mettre sur le...
Oui, mais l'infanticide est aussi...
Non, mais absolument. On peut pas mettre sur le même plan la peine de mort, qui dans certains cas trouve des justifications sociales, politiques, au niveau de la cité, et l'avortement qui, en aucun cas, peut trouver une justification dans la loi. Dans la loi. C'est-à-dire que le législateur ne peut en aucune manière permettre qu'on puisse avorter.
L'avortement n'a aucune légitimité.
Voilà, mais aucune. Il y a le niveau de la loi et il y a ensuite le niveau de la justice. Alors le juge, lui, c'est pas un législateur. Et quand il se trouve devant une situation particulière où il y a eu un avortement commis, la réalité du crime existe toujours. Le jugement que lui va rendre peut être indépendant du principe qui a été émis dans la législation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut regarder les choses avec hiérarchie. Autrement dit, parce que à se lancer une course comme ça, aller au Trocadéro, etc., on finit par mettre toutes les choses de façon égale, enfin à les aplatir sur deux dimensions et à dire si on est contre l'avortement, on est forcément contre la peine de mort. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Parce que ce sont deux choses différentes. Encore une fois, le législateur et particulièrement le magistrat, s'agissant de la peine de mort, il est là, lui, pour protéger la société. Donc, il sait que la vie est un don de Dieu et c'est quelque chose de sacré. Mais, même dans la doctrine thomiste, saint Thomas prévoit, l'Église, d'ailleurs, elle-même, qui est la mère de la sagesse, s'agissant des hommes, c'est bien que dans certaines circonstances, il faut que le juge lui prenne des responsabilités, non pas transgresse, si vous voulez, mais d'une certaine manière transgresse un principe, et cela le prend pour lui. Tandis que dans l'avortement, on a fait le contraire. On a dit, il y a des cas particuliers épouvantables, et donc il faut autoriser l'avortement. Alors qu'il fallait dire, l'avortement en aucune façon ne peut être autorisé par une loi, mais il y a des cas épouvantables, qui à ce moment-là passe devant un juge, et c'est le juge qui rend son jugement en dehors des principes que l'on connaît et que l'on respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on fait le contraire. Aujourd'hui, dans notre société, on a renversé toute l'échelle des valeurs à propos de l'avortement, et on a renversé toute l'échelle des valeurs à propos de la peine de mort. Et nous, sous prétexte qu'on voudrait obtenir des gains que vous n'obtiendrez pas, docteur, on va aller au Trocadéro, si vous voulez, dans un contexte de gens qui, de toute manière, ne sont évidemment pas prêts à nous entendre. Je ne crois pas qu'on puisse sacrifier des principes pour des gains qui sont illusoires.
Mais je ne vois pas du tout le sacrifice du principe. Vous l'avez dit vous-même, elle va avorter, donc c'est tuer un enfant. Et là, ce principe, je veux dire... Alors là, comme il est question de mort... Et de peine de mort, encore une fois, là, je suis un peu lusargusiste.
Mais non, parce que vous allez dans une manifestation qui célèbre l'abolition de la peine de mort.
Oui, c'est ça.
En disant, moi, je cautionne ça, puisque je suis contre l'avortement. Alors que c'est pas...
Oh, mais je ne cautionne pas l'abolition.
Non, je ne pense pas que le docteur cautionne.
Non, je ne cautionne pas du tout.
Il profite de ce rassemblement pour dire penser...
Tout simplement.
Vous qui êtes venu là...
Je ne cautionne pas du tout l'abolition de la peine de mort. Non, je m'indigne du fait que les coupables rentrent pas chez eux, mais enfin, ne sont pas exécutés, et mon Dieu, peut-être après tout, tant mieux, je ne sais pas, ça c'est une autre affaire. Mais alors que quand tu les innocents, ça me dépasse. Voilà. Et enfin, bon, je redis les mêmes choses, et vous avez...
Parlez bien en face du micro.
Et vous avez donc argumenté. Mais ce que je vois, donc, c'est qu'il y a deux lois qui s'opposent, une loi qui permet, donc, qui abolit la peine de mort, et l'autre loi qui donne au contraire un fondement légal à la violence. Et alors, je dirais, mais... Puisqu'il s'agit de mort, dans les deux cas, et que l'un est innocent, l'autre coupable, moi, au contraire, je trouve que là, les choses peuvent très bien être débattues.
Ce ne sont pas deux lois qui s'opposent. Si vous dites que ce sont deux lois qui s'opposent, ça veut dire qu'il y a une mauvaise et une bonne. Or, ce sont deux mauvaises lois dans les deux cas, à mon sens. Parce qu'à chaque fois, ce sont des lois subversives. Ce sont des lois qui, l'une et l'autre, militent contre le bien commun. Donc ce ne sont pas deux lois qui s'opposent.
Oui. Ah,
si
oui.
Vous venez dire aux abolitionnistes ce sont deux lois qui s'opposent, ça veut donc dire que vous cautionnez leur démarche.
Non, je ne donnais pas de... Comment dire, je ne donne pas d'appréciation sur l'abolition de la peine de mort. personnellement, je pense qu'effectivement, je serais plutôt votre avis quand un homme a fait, ou une femme, enfin, a fait pique-pendre, a étouffé, je pense à cet homme qui avait étouffé des pauvres femmes dans des sacs en plastique, je ne sais pas combien de fois, 15 fois à Montmartre et tout ça, et ensuite il s'est pendu dans sa cellule parce que il cherchait de la drogue, l'argent de la drogue, enfin, c'est l'horreur, le crime était certain, etc. Moi je crois qu'on leur rend même service en leur coupant la tête, je crois. Alors, je crois, parce que
certain,
parce qu'on se convertit à ce moment-là, moi je crois.
Ce qui est certain, c'est que les aumôniers, eux, des prisons, disent bien qu'ils avaient affaire, enfin, leur travail spirituel était plus facile avec des condamnés à mort. Moment-là, en face de la mort.
Et on se convertit à ce moment-là.
Il y avait des.
Alors, peut-être arrêter un petit peu
ce autre,
voilà, qui est un débat très intéressant, mais qui peut nous mener quand même très tard, enfin, plus tard que 9h05. Le sifflet nous sera coupé de toutes les manières. Je pense que ce que voulait dire le docteur Dor, et en cela je le suis, pour parler plus familièrement, c'est que les abolitionnistes, ce qu'on appelle donc les partisans de l'abolition de la peine de mort juridique, en quelque sorte, ont eu en la personne de Robert Badinter un avocat de première grandeur et extrêmement convaincant, mais que les enfants avortés, eux, n'ont pas la chance d'avoir eu un avocat. Jusqu'à preuve du contraire. Bien. Alors, oui.
Mais et pour cause?
D'accord, très bien. Donc, ils n'en ont pas eu. Alors, docteur, expliquez-nous ce que vous allez faire.
Oh, c'est très simple. Tout à l'heure, on parlait de la prière et de la rue. Enfin, c'est ce que faisait la Renaissance catholique dans cette manifestation prévue pour le 20 octobre. C'est au fond ce que je propose, c'est-à-dire que l'on vienne prier à 18h30, le lundi, au pied de la statue du maréchal Foch. Je trouve que ne pas penser à nos morts, la loi Veil, enfin la loi Giscard, Chirac, Veil, a fait, d'après les chiffres officiels, environ 5 millions de morts. C'est en fait beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais d'après les chiffres, donc actuellement, on compte 220 000 par an. Alors comment ne pas penser à eux, à tous ces petits, alors qu'on pense à des coupables? C'est ça.
Oui, ben, on est d'accord. C'est pas la loi qui est homicide. Non, c'est l'homme qui est homicide.
C'est l'homme, voilà, c'est l'esprit qui est mal fait. C'est une île. On est en pleine contradiction au pays de Descartes, ou je ne sais pas, Descartes n'est pas une référence véritablement, n'est-ce pas? Puisque, bon, mais là, encore une fois, alors je repense ce que j'ai dit, on ne peut pas mettre la liberté avant la vérité. La vérité, je crois que même que c'est la source du péché originel. Il est bon donc de dire la vérité, notamment ce jour-là, lorsque les gens déraillent, aussi bien d'ailleurs sur l'abolition de la peine de mort que sur la permission qui est faite de tuer leurs enfants.
Alors bon, ce débat. Alors, ça, redites bien le lieu.
Oui, alors le lieu. Nous sommes très pacifiques. Nous intervenons dans une manifestation. On n'a pas besoin de la déclarer, n'est-ce pas? Nous ferons partie de la manifestation, mais nous serons un peu à part, disons. Donc, c'est au pied de la statue du maréchal Foch à 18h30, et nous prierons pour tous. Nous prierons pour Badinter aussi, pour tous. Après tout.
La prière ne peut pas faire de mal. De toutes les manières, ça ne peut pas faire de mal. Jacqueline, quelques des messages, des remarques d'auditeurs.
Oui, alors c'est pour Yves-Marie Adeline. Monsieur Adeline devrait faire sienne la remarque de Bismarck. Tout homme a sa valeur propre, diminué de sa vanité. Et pourtant, je suis légitimiste.
Bon, ben voilà. Là, vous avez votre paquet. Chacun son paquet.
Il y en a un autre encore. Monsieur Adeline est assez habile pour rendre confus une question parfaitement claire, pour rendre confuse, je pense, une question parfaitement claire, le parallèle entre l'avortement des innocents et l'exécution des criminels. Monsieur Adeline est bien parti pour faire un bon politicien.
Je crois que cet auditeur, lui, a l'esprit un peu confus quand même. Je veux dire, je veux pas lui dire de mal parce qu'il a l'habitude de nous envoyer des messages, mais enfin, là, il est un peu confus. Il n'a pas écouté, encore une fois. Il y a des gens qui écoutent.
Il faut reconnaître
c'est une chose délicate. Un peu complexe, parce que si toutes les choses étaient simples dans le monde, c'est un petit peu complexe. C'est un débat qui demanderait des développements. Donc je peux comprendre que certains auditeurs d'abord, ça arrange beaucoup de monde de faire l'économie de la complexité du monde. Oui. Et je peux comprendre que certains auditeurs comme ça aient réagi au premier.
Bah, Téton disait ça, le monde est complexe, il faudra un peu de complexité dans la tête.
Et une auditrice nous dit, je connais une personne qui m'avait dit, si je me fais violer, j'aurais abandonné l'enfant. Qu'en pensez-vous?
Abandonné ou...
Oui, abandonné.
Abandonné, c'est autre chose.
Autre chose.
Oui, enfin, c'est autre chose.
Oui, elle l'aurait confié, autrement dit.
Enfin, de toute manière, c'est pas la faute de l'enfant.
On faisait beaucoup.
Encore une fois, le problème, c'est pas là où, évidemment, la loi, elle est là pour donner un cadre, mais c'est l'homme qui est homicide. C'est pas la loi elle-même, malheureusement. Enfin,
On peut dire une toute petite chose au sujet de la loi Aubry et la loi Veil. La loi Aubry a considérablement aggravé la loi Veil.
Enfin, faut dire tout. Faut dire c'est la loi Giscard, Chirac, oui. Veil.
Giscard, voilà.
Mitterrand.
Mitterrand.
Aubry, c'est Jospin. C'est Chirac. Voilà, deuxième fois Chirac.
Parce que la pauvre Veil, quand même, c'est tout le temps elle qui prend.
C'est vrai. Soyons justes.
Faut quand même penser qu'elle.
Vous avez raison. Alors disons la loi de 75 et la loi de.
Dans un gouvernement qui avait un premier ministre qui s'appelait Monsieur Jacques Chirac et qui avait un président de la République.
Non, mais vous avez entièrement raison. Bien sûr, Giscard.
C'était la commissionnaire.
Non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la première loi, celle qui a permis finalement l'avortement, est finalement beaucoup plus grave, à mon avis, que la loi Aubry, qui a considérablement aggravé les dispositions de la première loi. Pourquoi ? Parce que entre elles, il n'y a pas tellement une différence de degré une différence de nature que de degré. Ce qui était grave, c'est de fracturer la porte. Qui était fermé depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Et ça, c'est la première loi législative.
Le pire,
ça a été d'ouvrir la porte.
La première loi,
c'est le pire.
Dépénalise, ouais. C'est-à-dire fait sortir le crime d'avortement de la répression légale. La deuxième loi
n'a fait qu'amplifier finalement.
Non, elle donne un droit.
Elle donne un droit,
on ne peut pas s'opposer à un droit, puisque par définition, un droit, c'est un droit. Ceux qui s'opposent à un droit, c'est les ennemis de la liberté, c'est les tyrans, c'est les réactionnaires, les fascistes, les nazis, enfin on connaît tout ça, tout le chapelet, on le connaît par cœur. Alors, s'opposer à un droit, c'est une chose invraisemblable. Comprenez, c'est comme si je m'opposais au droit de respirer, par exemple. On ne peut pas s'opposer au droit de respirer. Voilà, c'est pareil, on est dans le même cas de figure. Alors, cher docteur, donc, redites-nous encore une fois l'adresse, l'heure et le lieu.
Alors, je répète, bien entendu. Alors, donc, le lundi 8 octobre, qu'est-ce que je raconte? Le lundi 8 octobre, à 18h30, pied de la statue du maréchal Foch, près du Trocadéro.
Voilà, esplanade du Trocadéro.
Esplanade du Trocadéro.
Voilà, esplanade du Trocadéro, il y a tant de noms, et même la place de l'étoile, ils ont eu des débaptisés, on se demande, voilà. Merci cher Xavier Dor, j'espère que vous n'êtes pas choqué par le... Mais je crois que c'était un débat qu'on aura peut-être l'occasion de reprendre,
parce que c'est très important.
Vous savez que par ailleurs, nous sommes très amis, Xavier Dor et moi, c'est une question intellectuelle.
Dont il faudra peut-être reparler.
Oui, effectivement, certainement, parce que c'est un peu complexe.
Bon, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort de dire, attention, c'est pas...
Il y a un droit imprescriptible à la vie. S'agissant d'un criminel, il appartient au juge d'essayer de voir dans quelle mesure il doit faire exception à ce droit-là pour protéger la société. Ça, c'est ce qu'on appelle la peine de mort. Et dans des sociétés qui ont un niveau de conscience extrêmement élevé, on peut se passer de peine de mort. Dans des sociétés où le niveau collectif de la conscience s'effondre, il faut sans doute penser à prévoir un arsenal de la répression qui soit en équilibre avec qui rééquilibre la chute de la conscience collective, parce que sinon, ça pénalise les victimes, vous comprenez? Et il y a par ailleurs, avec l'avortement, il y a un droit imprescriptible à naître, et il y a des circonstances particulièrement tragiques qui font qu'un juge peut, dans son âme et conscience, prendre des décisions qui vont contre qui ne pénaliserait pas la jeune fille violée par son père, etc. De même que la jeune fille violée par son père qui tue son père commet un parricide. Il ne faut pas faire une loi en disant que le parricide est admis, quand bien même, dans ces circonstances épouvantables, on peut comprendre que la jeune fille ait tué son père. Il n'appartient qu'au juge, et certainement pas au législateur, de prendre à ce moment-là, de rendre un jugement en équité, on appelle ça... Donc vous voyez qu'il y a un tout petit peu de complexité qui peut échapper à certains qui veulent que les choses soient toujours très simples. Donc c'est en cela que je dis, en balayant cette complexité et en réduisant tout à deux dimensions, ça fait rire le diable, ça réduit tout à néant, et c'est la porte ouverte à la subversion. C'est pourquoi je disais que les abolitionnistes et les partisans de la vie, les pro-vie, ne peuvent pas se mettre ensemble en réalité parce que leurs valeurs ne sont pas les mêmes.
C'est clair.
Vous voyez ce que je veux dire.
Bon, je crois que l'idée, c'est
donc on n'a rien à gagner, nous, à ce...
C'est de porter témoignage. Et puis, on est là. Puis,
oui, voilà. Absolument.
C'est
ce que fait Xavier Dor.
Et puis, vous êtes très riche. Voilà. Alors, maintenant, merci, mon cher camarade Xavier Dor. À bientôt. Que Dieu vous garde. Alors, donc, je passe maintenant la parole à notre ami Benjamin Guimet. Alors, il nous a fait un petit peu peur hier à la radio, enfin un petit peu peur parce que Vous allez organiser un grand colloque le 17 novembre.
Mmh, tout à fait.
Sur, donc c'est le colloque de l'Alliance Sociale.
Oui.
11 rue du Bel Air, 94 230 Cachan, je dis tout de suite parce qu'après on va oublier. Et après l'émission, on sera zut, on n'a pas donné le numéro de téléphone qui est le 01 46 63 69 17.
Le mieux c'est d'écrire quand même.
Alors écrivez, c'est plus pratique. Ouais. Alliance Sociale, 11 rue du Bel Air, voilà. 94 230 Cachan.
Oui.
C'est ça. Alors, 17 novembre, donc, une grande journée, un grand colloque qui va durer toute la journée, et qui s'appelle Quelle structure fédérale pour la France? Alors là, j'imagine que
voilà,
beaucoup
d'auditeurs
de Radio Courtoisie, et le fédéralisme, comment ça? C'est honteux, c'est Bruxelles, c'est machin, ces trucs. Alors, expliquez-nous.
Alors, je crois que je suis content d'être parmi vous, puisque le fédéralisme, si on y réfléchit bien, est une conception sociale qui a été appliquée pendant près de 13 siècles en France, depuis Clovis jusqu'en 1789. Ce fédéralisme, c'est le principe de l'association. Progressivement, les chefs d'État de l'époque, disons-le les rois, ont agglutiné, à partir d'un centre, des provinces, des peuples, des métiers. Ils ont organisé, si je puis dire d'une façon organique, la société, par mariage, par annexion, jusqu'au jour où il y a eu une révolution complète de cette société. Par les principes, comme le disait tout à l'heure le docteur Dor, de liberté, qui a été le principe absolu qui devait libérer, mais alors, liberté des individus. La personne n'était plus encadré dans ces cadres naturels, organiques, que sont sa famille, que sont son métier,
sa paroisse, sa commune,
paroisse, commune, région. Il y a eu une rupture complète au bénéfice d'une conception individualiste. En sorte que, et on le voit bien très bien dans la représentation politique, puisque les États généraux étaient justement l'expression de toutes ces petites corps naturel, enfin, à l'époque, il y avait le clergé, la noblesse,
les ordres,
le clergé d'État, mais on s'était aperçu au cours des différents États généraux, depuis d'ailleurs 1614 et les précédents, ça s'éloignait d'ailleurs de plus en plus, le tiers-État réclamait une représentation beaucoup plus importante. Or, le tiers-État, c'était la représentation des métiers, des familles, bon. Et Louis XVI avait donné, justement, une place beaucoup plus importante aux États généraux de 1789.
Il a doublé le tiers.
Il a doublé le tiers. Bon, c'était donc dans le bon sens que cela allait, mais ça n'a pas plu aux révolutionnaires de l'époque, et ils se sont dit, il ne faut plus qu'il y ait de votes par corps, mais des votes par tête. C'est-à-dire qu'on individualisait, je dirais, la responsabilité personnelle, on érigeait cela en principe politique. Et on a eu la souveraineté du peuple. Le peuple étant l'addition ou la soustraction, puisque c'est devenu l'affrontement entre des partis politiques, des idéologies, et ça n'était plus la représentation organique, je dirais, d'un peuple bien constitué qui s'organise par association entre les corps différents. Voilà. Donc il y a eu... Alors cette dérive, on la retrouve dans nos souverainistes qui créent une ambiguïté considérable sur le terme, justement, de souverainisme, parce qu'ils parlent de souveraineté. Et dans la mesure où la souveraineté nationale qui doit être préservée, et Dieu sait si nous y sommes attachés, et c'est dans cet esprit que nous avons voulu créer l'Alliance sociale, pour justement remettre la nation, l'idée nationale, sur des bases saines qu'elle a perdues à l'époque. Donc, cet souverainisme a été justement le mode d'expression de la souveraineté du peuple, et on nous dit la souveraineté ne se partage pas. Or, nous, à partir de notre doctrine sociale de l'Église, de notre conception chrétienne de la société, nous pensons, avec le pape Jean-Paul II notamment, qui l'a très très bien exprimé dans Santissimus Annus, que la souveraineté doit être partagée, les autonomies doivent être partagées. Il le dit très nettement, et je crois qu'il faut relire ce passage, parce que c'est un petit peu notre Bible, une des voies. Alors, le caractère social de l'homme, il parle bien du caractère social et non pas du caractère individuel. Hein, le caractère social de l'homme se réalise dans divers groupes sociaux intermédiaires qui ont leur autonomie propre. Une des voies pour parvenir à cet objectif pourrait être d'associer le travail, alors il en parle à propos du travail, mais c'est valable pour tout, à la propriété du capital et de donner vie à une série de corps intermédiaires à finalité économique, sociale et culturelle. Ces corps jouiraient d'une autonomie effective. L'Église défend, alors un peu plus loin, l'Église défend les différentes organisations sociales et les nations. Alors c'est là où on voit que l'amplitude, je dirais, de la conception chrétienne de la société, l'Église défend les différentes organisations sociales et nations, réalités qui jouissent toutes d'un domaine propre d'autonomie et de souveraineté. Donc, chaque corps intermédiaire doit avoir son autonomie en fonction de sa compétence propre et de ses responsabilités. Donc voilà alors, un petit peu le schéma, la philosophie même qui a présidé, je dirais, à l'élaboration de notre doctrine de l'alliance sociale, qui précède un petit peu, Yves-Marie Adeline...
Alors justement, j'allais dire, alliance sociale à ma droite, avec une critique du souverainisme, comme on l'appelle aujourd'hui, comme on l'appelle cette doctrine politique, c'est une doctrine politique, et alors à ma gauche, donc Yves-Marie Adeline, lui, c'est l'alliance royale, qui lui aussi, alors il n'est pas toujours très très bien compris d'ailleurs, et pas très bien apprécié, comme oui, j'ai que vous parlez, vous n'êtes pas apprécié, parce qu'on voudrait... Non.
Alors, vous savez, quand on fait de la politique, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc si vous plaisez à tout le monde, ça veut dire que vous n'avez rien à dire, ou ce que vous dites est inintéressant. Donc il est normal qu'il y ait des gens un peu...
Pour dire les mêmes Chirac ne veulent pas à tout le monde. alors vous, par contre, la critique que vous faites du souverainisme, pas de la souveraineté, mais du souverainisme.
Oui, alors c'est autre chose.
Donc,
j'aurais pu dire deux, trois mots de ce que je pense de l'alliance sociale. Du souverainisme. Écoutez, ce que je pense du souverainisme, c'est que ça se fonde sur du vent, sur du brouillard. Et c'est ce qui fait que le souverainisme est une illusion qui balade nos chers électeurs vers c'est un miroir. La souveraineté est impossible sans souverain. Dans un pays comme la France, en particulier d'ailleurs, on ne peut pas distinguer... comment vous dire ? Puisque nous n'avons plus de roi depuis 200 ans, nous avons perdu donc ce qui faisait la cohésion, ce qui donnait un corps à cette nation, qui est la France. Et on s'imagine qu'on peut... C'est un peu, ça fait penser un peu au nationalisme, si vous voulez. Il n'y a plus de roi, alors on s'imagine qu'on peut tous se réunir autour d'un phénomène qui est un constat, un fait social, qui est la nation. Et ça tiendrait lieu de doctrine politique. Or, en réalité, ça n'en tient pas lieu. On ne pourra pas... le souverainisme d'aujourd'hui, d'ailleurs... va tellement vers ces chimères que on s'imagine à l'intérieur de cette famille politique qu'on peut rassembler à droite et à gauche un peu n'importe qui autour de cette idée de la souveraineté nationale, alors que de droite et de gauche, on n'a pas du tout la même vision de la France. On n'a même pas du tout la même vision de la patrie. Je renvoie inlassablement à l'ouvrage « Les deux patries » du professeur Jean de Vigry, qui explique admirablement comment il y a deux notions très différentes de la patrie. Il y a la notion, on va dire, classique, et puis il y a cette notion complètement récupérée, dévoyée, qui a trompé tout le monde, y compris les gens de meilleure volonté. Alors que la patrie de la gauche, par exemple, la patrie de la République, ça n'a jamais été la France, c'est la République elle-même. À l'époque où la France était la seule République, alors on disait la patrie, vive la France, mais en fait c'était vive la République. On nous faisait chanter, la République nous appelle, sachant vaincre, sachant mourir, en particulier mourir d'ailleurs.
Dans les discours présidentiels, depuis le général de Gaulle, en passant par Pompidou, Chirac, Mitterrand, on dit toujours... On ponctue les discours en vive la République, vive la France, ce qui fait que c'est pas la même chose. écoutez.
Oui, c'est vrai.
C'est pas la même chose.
Du moins,
c'est la France et la République.
Oui, c'est pas la même chose, c'est vrai. Et alors, si vous voulez,
La République, elle va à la France comme une paire de moufles à un manchot. Faut dire les choses comme elles sont. Mais écoutez, faut être clair quand même. Quoi. C'est effrayant. Non.
Donc cette souveraineté, en fait, n'est pas possible parce que le processus actuel de dilution de la France dans un ensemble fédéral, européiste, etc., est un processus logique, c'est un processus normal qui est dû à l'histoire de la République. Il est naturel qu'aujourd'hui, où nous ne sommes plus en 14, où la France était la seule République, aujourd'hui où toute l'Europe est républicaine, je fais abstraction des monarchies républicanisées que nous connaissons. Voilà, c'est bon. Mais j'en fais le procès à personne. Mais enfin, c'est comme ça. Aujourd'hui, toute l'Europe est républicaine. Bah, la patrie naturelle de la République, c'est l'Europe. Et puis, on espère un jour que ce sera le monde. Bon, après, ça, on rentre dans la contre-eschatologie maçonnique, bon, peu importe. Donc,
j'espère que les Martiens sont républicains, hein, parce qu'on va avoir des problèmes dans un sens. Enfin.
Donc, si vous voulez, ce souverainisme ne mènera à rien parce qu'il repose pas sur un projet qui consiste à refonder la France sur les bases qui l'ont fondée. La France, c'est pas seulement une nation au sens étroit du terme, c'est un grand projet politique qui permet à des gens de Bonifacio de s'associer à des gens de Nordpein, dans les Flandres françaises. Et c'est ça qui fait la France, qui fait le génie de la France. Donc, pour refonder la France, pour lui faire retrouver sa souveraineté, il faut repenser au souverain. Et j'ajoute, comme disent les hommes politiques d'aujourd'hui,
ça y est, vous avez pris le pli.
Ah, ça vient, hein, bon.
Ça vient.
Donc, non mais, alors, j'ajoute que dans notre époque actuelle, et c'est là où on peut un peu rebondir sur l'alliance sociale d'ailleurs, mais dans notre époque actuelle, où nous traversons une période d'internationalisation des échanges, on va dire de mondialisation, voilà, pour résumer.
Ce qui en soi n'est pas la mondialisation, n'est pas un drame.
Bon, enfin, it is as it is, c'est comme ça.
Il y a pas à dire. C'est autre chose, mais la mondialisation.
Voilà, non, mais il n'y a pas à dire, c'est bien, c'est pas bien. Écoutez, c'est comme ça.
Je rappelle qu'à l'époque des rois, quand même, le sucre venait des Antilles, les lainages venaient d'Angleterre, l'acier venait de Suède.
Enfin, non, mais cher Daniel, bon. À l'époque des rois, ça veut rien dire. Si vous partez de 496 à 1789, vous constatez une chose, c'est que le génie de la monarchie aura été de savoir s'adapter toujours à toutes les circonstances, à toutes les situations. Et aujourd'hui, où nous sommes dans une situation comme celle-là, plutôt que de se replier sur des réflexes crispés, j'allais dire nationalistes, mais enfin, bon, chaud, cocardier, quoi de mieux, au contraire, qu'un souverain pour incarner et donc garantir la souveraineté française, tout en sachant que on peut pas fermer ses frontières à un logiciel, par exemple. Bon, et que c'est comme ça. Alors, là où je rebondis sur l'alliance sociale, c'est que, et c'est pour ça que j'ai...
Alors, faut parler, hein. Donc, refondation sociale, c'est dans le Fidélis numéro 10.
Oui, voilà.
Donc, l'article de Benjamin Guillemin, refondation sociale, dans votre chapitre qui s'appelle, dans la rubrique qui s'appelle Aujourd'hui la monarchie.
Oui, parce que dans cette rubrique Aujourd'hui la monarchie, je donne la parole à des personnes diverses, et Benjamin Guillemin est donc la dernière en date, pour leur demander, écoutez, s'il y avait aujourd'hui une monarchie française en 2001 et que le roi vous disait qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposeriez vous dans votre domaine. Alors Benjamin Guillemin, on le présente pas, on sait très bien que ça fait des années qu'il émet des propositions au sein de l'alliance sociale. Je suis pas d'ailleurs en train de dire que l'alliance sociale serait nécessairement la doctrine de l'alliance royale, mais je trouve que c'est très intéressant comme travail. Et donc Benjamin Guillemin, avec le talent qu'on lui connaît, participe, si vous voulez, à ce grand débat. C'est vrai que sur certaines questions, personnellement, je ne sais pas trop comment aujourd'hui on peut intégrer la notion de métier comme on pouvait le faire autrefois, compte tenu de l'extraordinaire complexification du métier aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir des visions corporatistes, sachant que ça a répondu à des périodes bien précises et que aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit dans une période comme celle-là. Autrement dit, sachant que quand on parle de doctrine sociale de l'Église, on ne parle pas des vérités du dogme et de l'Assomption, hein. On parle d'une période, le 19e siècle, où l'Église s'est voulu prendre sa part au grand débat sur cette question, notamment sur la question sociale, parce qu'à l'époque, personne s'en occupait, y compris la gauche, les républicains s'en préoccupaient pas. C'est le marxisme qui est venu après.
Non, mais c'est les royalistes qui s'en sont
occupés. Non, les premiers qui s'en sont occupés sont les royalistes. Toute l'école légitimiste.
Les catholiques sociaux, les légitimistes,
et après, Marx est arrivé. Bon, mais bon, la doctrine sociale de l'Église, elle s'est progressivement, on va dire, fondée grosso modo à cette époque. Et aujourd'hui, il y a certainement des points qu'il conviendrait de discuter, notamment sur l'économie, etc. Donc l'organisation sociale, je pense qu'il faut sans doute avoir une vision plus ouverte. Mais il appartient aussi bien à l'Alliance sociale qu'à d'autres de justement de se rencontrer, de parler ensemble à travers notamment un forum comme celui-là aujourd'hui, la monarchie, pour apporter leur réponse.
Alors exactement. Je le dis d'autant mieux que votre article se termine par cette jolie phrase, hein, l'alliance royale qui lie le prince à ses peuples est d'abord en fait une alliance sociale. Ça, c'est vous qui l'écrivez.
Et oui, c'est ça. Il faut quand même que le monarque, s'il y en a un, bien que nous n'ayons pas posé le problème sous l'angle monarchique. Oui,
mais vous, c'est pas votre travail.
Mais nous,
travail,
c'est l'organisation de la cité. Bon, le principe fédéral, le principe corporatif peut s'appliquer simplement dans une république. On le voit en Suisse notamment et dans d'autres pays. Donc, je vous remercie d'avoir mis l'accent sur le problème du métier, parce que bon, c'est ce qui me touche beaucoup plus. Mais nous mettons également à l'Alliance sociale. Nous sommes d'ailleurs beaucoup plus un centre de réflexion, un groupe de coordination. On se baptise beaucoup plus une agence, vous voyez, beaucoup plus qu'un mouvement de masse, parce que je pense que c'est dans la qualité des hommes bien formés, ayant une bonne perception, je dirais, de une bonne vision de la société à construire, que l'on pourra redémarrer et reconstruire la France. Alors, un des points que je voudrais souligner quand même, et que
en une minute,
c'est dommage, parce qu'on vous écoutait.
C'était le problème de la monnaie, qui me paraît absolument capital à l'heure actuelle. Tous les souverainistes mettent l'accent sur le franc. Or, il faut quand même savoir que la souveraineté de l'État français actuellement sur le franc ne porte que sur 4 ou 5% de la monnaie qui circule. Les 95 autres pourcents de la monnaie circulante, l'État français a abandonné sa souveraineté déjà depuis longtemps entre les mains des banques. Or, cela, personne ne le dit. Et nous sommes les seuls, depuis une dizaine d'années, à avoir réuni un certain nombre d'amis, notamment M. Onac, qui a écrit un ouvrage, Jean-Pierre Dutilleux.
Qui a écrit un article, d'ailleurs, dans Fidélis.
Et un article, d'ailleurs, vous voyez. Donc, nous constituons un groupe de réflexion qui peut vous apporter une doctrine et des éléments, je dirais, pour résoudre beaucoup de problèmes actuels.
Merci Benjamin Guimet. Alors, je suis navré, mais là, il nous reste vraiment 2 minutes. Alors, je redonne l'adresse de l'Alliance sociale. 11 rue du Bel Air, 94 203 Cachan. 11 rue du Bel Air, 94 203 Cachan. Le colloque étant le 17 novembre.
17 novembre.
On invite les gens
à
vous écrire.
Et peut demander
à envoyer une enveloppe libellée. Ils recevront
toute la liste
des
papiers annexes sur l'Alliance sociale.
L'Alliance royale, président Yves-Marie Adeline, c'est 50 avenue de Saxe. 75-015 Paris, oui. 50 avenue de Saxe, 75-015 Paris. Oui, la revue Fidélis, si vous souhaitez vous la procurer, c'est 55 francs l'exemplaire. Alors là, il faut écrire à Fidélis, 22 rue Didot, Paris 14e, 22 rue Didot, Paris 14e, donc c'est le numéro 10, avec l'article de Benjamin Guimam, aussi bon, beaucoup de papiers d'Yves-Marie Adeline et d'Alain Texier, enfin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, alors j'ai à donner à peu près tous les tours. Là maintenant, il y a encore deux petits messages que j'aimerais vous dire.
Alors c'est une auditrice.
On n'a pas le temps.
La France, oui, je lis quand
allez-y,
même.
Allez-y, rapidement.
La France n'est pas la première république, les États-Unis nous avaient précédés avec l'aide de la France, il est vrai.
Non, attendez, on parlait de l'Europe, voilà.
Alors, et puis un auditeur nous dit, peut-on désigner les jolies voix de Radio Courtoisie pour la défense de la langue française?
Mais oui, on a plein de jolies voix. Allez, maintenant, deux messages qui nous
une conférence faire. Organisée par l'association Una Voce, pour ceux qui aiment la liturgie, le latin et le chant grégorien, animée par monsieur l'abbé Franck Coex. Le thème, les sources anciennes de la messe romaine. Cette conférence sera suivie à 18h d'une messe de requiem selon le rite traditionnel, pour le repos de l'âme de ceux qui nous ont quittés cette année, et en particulier pour Mademoiselle Vallon, rédacteur en chef de la revue Una Voce. Entrée libre, et ces deux manifestations seront précédées à 14h30 de l'Assemblée Générale de l'Association.
Bon.
C'est le samedi 6 octobre 2001 à 16h dans la crypte de l'église Saint-Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé, Paris 17e. Donc, alors, le samedi 6 octobre 2016.
La prochaine conférence de Paul Biller.
Samedi 6 octobre, le Palais Royal et ses hôtes illustres. Rendez-vous à 14h45, 4 galeries Montpensier, métro Palais Royal.
Eh ben voilà, on a tout fait. Je remercie beaucoup les auditeurs d'avoir eu la patience de nous écouter jusqu'à point d'heure. Merci Benjamin Guillemin, merci Marie-Adeline, merci ma petite Jacqueline, merci Franck. À très très bientôt. D'ici là, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Serge de Bekech, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Jacqueline Leuvenbruck. Document d'archives du 3 octobre 2001, rediffusé dimanche 27 mars 2011 dans la nuit de 3h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.